Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose d'ouvrir la séance de ce conseil municipal du 21 mai 2026. En l'ouvrant, je voudrais tout particulièrement saluer la présence de certains membres du conseil municipal des jeunes. Je m'adresse au conseil municipal et ou au public pour les identifier ici, pour la plupart, puisqu'ils sont ceints de l'écharpe tricolore, je crois qu'ils sont tout à fait distinguables. Je les salue, c'est un bel échantillon du conseil municipal des jeunes qui est donc présent ce soir, puisque l'une des premières, sinon la première délibération, portera précisément sur la dénomination, la nouvelle dénomination de l'espace jeunesse, où ils rayonnent, bien entendu, à travers leurs fonctions et aussi les missions qui leur sont dévolues. Et à cet égard, je voudrais rappeler que je les ai rencontrés la semaine dernière. Nous avons tenu une réunion d'à peu près 1h30 en présence d'Élise Langueuvre, l'adjointe en charge de ce secteur, et d'Étane Benaroche, qui est particulièrement chargé de l'animation du conseil municipal des jeunes aux côtés de l'Élise. Donc je salue les membres du conseil municipal des jeunes présents ce soir, les remercie de leur action au nom de la collectivité, tout comme je salue peut-être certains membres de leur famille. Et alors j'ouvre donc cette séance, tout d'abord par l'appel des élus. M. Jiquel présent, M. Drouvillier va nous rejoindre, qui est en conseil d'école. Mme Lopos-Montier
présente.
M. Gaillard qui est absent, a donné son pouvoir à M. Segala. Mme Herbert va nous rejoindre, car elle se trouve précisément à l'espace Art et Liberté pour le vernissage d'une exposition. M. Turano
présent.
Mme Minard
présente.
M. Segala
présent.
Madame Girard est absente, elle est au théâtre municipal pour la conférence avec Marc-André Sellos, donc elle représente la municipalité à ce moment même. Monsieur Bocara.
Présent.
Et Madame Girard a donné son pouvoir à Monsieur Turano. Monsieur Bocara présent, Madame Longuève.
Présent.
Monsieur Benoît.
Présent.
Madame Menou.
Présent.
Monsieur Le Guil.
Présent.
Monsieur Scagliozzo absent, a donné son pouvoir à Monsieur Benoît. Madame Guiffard.
Présente.
Monsieur Gallotte.
Présent.
Madame Jancy.
Présent.
Monsieur Gabizon.
Présent.
Monsieur Trabelsit absent, a donné son pouvoir à Madame Lou, Postmentier. Madame Laxamy.
Présent.
Madame Porte devrait nous rejoindre. Monsieur Rosier.
Présent.
Madame Agel.
Présent.
Puis Léa Go devrait nous rejoindre. Donne son pouvoir. Alors, en attendant, donnera son pouvoir à Muriel Minard, qui n'en détient pas. Madame Denis. Elle va nous rejoindre vraisemblablement. Madame Samandel.
Présent.
Monsieur Benaroche.
Présent.
Monsieur Baron.
Présent.
Monsieur Lessani.
Présent.
Madame Marceau.
Présent.
Madame Leclerc. Présent. Monsieur Renaud.
Présent.
Madame Saroyan. Monsieur Sherman, pour l'instant, absent. Bien, je propose effectivement de disposer de quelques chaises supplémentaires pour le public qui nous rejoint, sachant que l'essentiel des places seront ensuite libérées si les jeunes du conseil municipal venaient à quitter la séance, que nous pourrions tout à fait comprendre compte tenu de la longueur de l'ordre du jour. Je salue la responsable du reste de l'espace jeunesse, responsable du pôle jeunesse et médiation, Aline Ruez, qui est à leur côté. Donc, en désignation de secrétaire de séance, dans l'ordre du tableau, il s'agit de M. Pascal Turano, qui accepte. Eh bien, il y a à la suite la proposition du procès-verbal de la séance du 15 avril dernier. Est-ce que cela appelle des remarques, des observations? Non. D'accord. Il est adopté en l'état. J'en viens ensuite à la présentation des décisions du maire en vertu de l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Elles sont peu nombreuses. Il y a la signature d'un contrat de cession avec l'association Self to Music concernant la réalisation d'un concert du duo Ponticello pour la fête de la musique et qui se déroulera, sauf erreur de ma part, l'adjointe à la culture n'est pas encore là, mais qui se déroulera dans le parc de l'Hôtel de Ville, précisément dans ce théâtre de verdure, en espérant que le temps soit aussi radieux qu'il se profile pour ce week-end. Ce sera une toute première, plus exactement une seconde fois qu'un concert sera donné dans ce parc. Le dépôt ensuite d'un dossier d'autorisation de travaux portant sur le réaménagement du bâtiment 649 rue de Paris, tout autant que le dépôt d'un dossier de déclaration préalable portant sur la modification de fenêtres à cette même adresse. Vous savez que depuis le transfert de la direction des sports situé originellement avenue Jean Jaurès, transitoirement ensuite dans le bâtiment du 10 rue de Valmy, à vocation et entre autres ce service, à vocation donc à intégrer les locaux du 49 rue de Paris qui sont donc réaménagés à cet effet. Donc nous engageons ces travaux de réaménagement sur ce site depuis le départ également de l'amicale du 3e âge qui est située désormais au 14 rue Jean-Baptiste Marty. Autre point, voilà, on note l'arrivée d'Argentina Domini. Autre point concerne la signature du contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle Trouveau pour Ivoire. Ça se déroulera donc le 28 mai prochain, semaine prochaine, au théâtre des Deux Rives. Et enfin, un marché de services, entretien des espaces verts de la commune de Charenton. C'est un marché à bon de commande pour une durée de 12 mois reconductible, le cas échéant, pour venir en soutien de nos équipes du service Nature et Jardin qui ont beaucoup plus d'actions et de missions à accomplir à l'échelle de la collectivité. Et compte tenu des difficultés que nous rencontrons, notamment pour recruter des agents jardiniers, en l'occurrence de formation, nous faisons donc appel à cette société de régime pour espace vert pour compléter le dispositif. Avis à la population, si vous connaissez des jardiniers, tout simplement déjà en poste ou non encore en poste, je vous invite à les diriger, à les orienter vers les collectivités de Charenton via de belles réalisations à entretenir ou à façonner. Donc, nous sommes tout à fait disposés à les accueillir. C'est une denrée rare, je dois le souligner. Voilà, pour ce qui relève des décisions du maire, est-ce qu'elles appellent des remarques, des observations? Oui, Madame Marceau.
Oui, c'est une observation de forme sur le libellé du titre versus la description des décisions 2026-023 et 2026-024, en fait, elles sont juste inversées. C'est purement formel.
Elles sont juste inversées.
Le titre ne correspond pas à la description. Le titre de l'un correspond à la description de l'autre.
D'accord, alors je n'ai peut-être pas la même version que vous. L'administration en dit-elle, je... Pour ma part, mon document paraît cohérent, mais... Bon, écoutez, on vérifie l'inversion des uns des autres. Pour ce qui me concerne, je crois que c'est cohérent. Mais...
S'il y a bien une inversion.
Il y a une inversion, bon. Bien vu. Je crois avoir la bonne version. Rien n'est moins sûr. Bien, alors, on demandera à l'administration de vérifier cela, tout précisément de porter cette modification à l'inversion relevée par Mme Marceau. Alors, j'en viens maintenant à la première des délibérations, donc, qui est le changement de dénomination de l'espace jeunesse que je rappelais dans mon introduction, en espace socio-culturel Joséphine Becker. C'est Élise Langeff qui aura donc l'occasion de rapporter ce dossier, mais je propose préalablement que Ruby Buffard puisse s'exprimer sur le contexte qui prévaut à cette modification de la dénomination, et ce faisant, puisqu'elle n'est pas membre en titre du conseil municipal, en tout cas à ce jour, peut-être le sera-t-elle un jour, je vous propose donc une forme de suspension de séance, c'est-à-dire que ces propos ne seront pas retranscrits officiellement dans le compte-rendu de cette séance pour rester évidemment dans la conformité de notre instance. Voilà, donc Ruby, vous avez la parole. On vous écoute avec attention.
Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, bonjour. Je m'appelle Ruby Buffard. Charentonnaise de naissance, j'ai grandi du haut de mes 20 ans au rythme de notre commune. Si je prends aujourd'hui la parole devant vous, c'est pour témoigner de la place importante qu'a eue l'espace jeunesse durant mon parcours. Tout a commencé grâce à mon père, qui m'a très tôt inscrite aux activités de vacances scolaires. C'est ici que j'ai découvert de nouvelles expériences. Au-delà du simple loisir, ces moments étaient de véritables occasions de partage et d'ouverture aux autres. J'ai également suivi des cours de danse avec une association accueillie au sein de l'établissement. C'est d'ailleurs en apercevant une affiche pour le concours des jeunes talents que j'ai décidé de m'y inscrire en 2018. Quelques années plus tard, en 2023, j'ai célébré mon bal de promotion. Un moment fort marquant la fin de mes années collège et lycée auprès des amis que je connaissais depuis la sixième. Plus récemment, j'ai eu l'opportunité de découvrir l'envers du décor grâce à la bourse au permis de conduire, une aide précieuse sans laquelle je n'aurais pas pu financer cet examen. Dans ce cadre, j'ai effectué un stage au sein de l'administration de la structure. Et qu'ai-je découvert durant cette expérience? Eh bien, en seulement une semaine, j'ai compris que le nom Espace Jeunesse ne reflétait plus pleinement la réalité du lieu. J'ai vu une grande diversité d'activités et de services. Des cours de musique, de chant, de théâtre ou encore de loisirs créatifs, mais également des salles et des studios mis à disposition pour différents événements. Mais surtout, j'ai vu défiler des habitants de tout âge. Ce lieu est devenu bien plus qu'un espace destiné à la jeunesse. C'est un véritable lieu de vie, de rencontres, d'échanges intergénérationnels où chacun peut trouver sa place. C'est pourquoi le choix du nom Espace socioculturel Joséphine Becker me paraît si symbolique. À l'image de cette femme engagée profondément humaniste, cet espace s'adresse aujourd'hui à tous les Charentonnais, des plus jeunes aux aînés. Il incarne le partage, la transmission et le vivre ensemble. Merci pour votre écoute. Merci.
Séance. Je remercie donc grandement Ruby pour son magnifique témoignage, ce parcours, effectivement, votre parcours jalonné de vos passages à l'espace jeunesse et qui vous conduit ici à apporter un témoignage tout à fait intéressant autour de ce vivre ensemble, de cette communauté de vie que forme l'espace jeunesse aujourd'hui, mais tel qu'il le formait hier lorsque vous avez fait vos premiers pas, si j'ose dire, au sein de cette enceinte. Et donc, merci également de conforter le choix de Joséphine Becker. Nous étions réunis il y a environ un an au pied même de cet espace, de cet équipement pour apposer l'effigie de Joséphine Becker. Et donc, nous voilà dans cette nouvelle étape qui est celle de la dénomination. Par conséquent, je laisse le soin à Élise Longuève de présenter brièvement cette délibération, sachant que nous avons déjà beaucoup évoqué le sujet. Alors, il faut appuyer davantage, ça n'a pas l'air de clignoter. Non. Bon, alors on va changer le micro. Changeons de micro. Voilà, c'est mieux, c'est clignote.
Merci, monsieur le maire. Je m'inscris dans la continuité des propos de Ruby et en totale cohérence avec elle. Notre espace jeunesse constitue un équipement socio-culturel structurant de la commune, lieu de vie, de culture, de création, de loisirs et de rencontres. Il s'adresse à l'ensemble des Charentonnais, tout en portant une attention particulière à la jeunesse. Ouvert et accessible à tous, il participe activement à la dynamique locale en favorisant les échanges, l'engagement citoyen et le vivre ensemble. Au cœur de ses missions figurent l'accompagnement éducatif, le développement culturel, la prévention et la promotion de la participation citoyenne. L'équipement s'articule autour de trois pôles complémentaires, un pôle jeunesse dédié aux 11-17 ans, incluant l'accueil de loisirs, des sorties, des séjours, le conseil municipal des jeunes et des actions d'accompagnement éducatif. Un pôle prévention, proposant des actions à destination de tous les publics, entre autres les 18-25 ans, BAFA, bourse au permis, actions de prévention dans la ville, conférences, interventions et actions de communication sur les addictions, l'utilisation des écrans, le harcèlement, etc. Et un pôle culturel, regroupant des ateliers socio-culturels ouverts aux enfants dès 6 ans, aux adolescents et aux adultes. Un studio d'enregistrement et une salle de représentation pour des spectacles et des concerts et qui peut être louée à des particuliers ou à des associations. Depuis plusieurs années, l'espace jeunesse a élargi son offre afin de répondre aux besoins des Charentonnais en développant notamment des actions à destination des familles, soirées jeux, soirées famille, et en amorçant une ouverture vers le public senior, cours de pilates et d'autres projets à venir prochainement, en lien avec les évolutions démographiques du territoire. Cette évolution traduit une ambition forte, faire de cet équipement un véritable lieu intergénérationnel, favorisant la rencontre, le dialogue et la cohésion sociale entre tous les publics. Dans le cadre de l'évolution de cet équipement et de son positionnement en tant que lieu ouvert et intergénérationnel, la ville a souhaité mettre en avant des principes et des valeurs en cohérence avec les missions qui y sont portées, en s'appuyant sur la figure emblématique de Joséphine Becker, dont le parcours incarne pleinement ses orientations, notamment en matière d'engagement citoyen, de courage, de lutte pour l'égalité et la fraternité, de culture comme levier d'émancipation, ainsi que de transmission des valeurs de tolérance et de vivre ensemble. C'est dans cette perspective, en effet, comme M. le maire le disait à l'instant, qu'un portrait de Joséphine Becker réalisé par l'artiste Brix a été apposé sur le mur d'entrée de l'équipement en septembre 2025. Dans le prolongement de cette démarche et afin de mieux refléter la diversité des actions menées et des publics accueillis, il est proposé d'attribuer à cet équipement une nouvelle dénomination, Espace socio-culturel Joséphine Becker. L'attribution de cette dénomination vise ainsi à affirmer l'identité de l'équipement et à en renforcer la visibilité auprès de l'ensemble des Charentonnais. En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la nouvelle dénomination de l'espace jeunesse de Charenton-le-Pont en l'espace socio-culturel Joséphine Becker. Merci, Monsieur le maire.
Merci. Je vous propose de mettre aux voix cette délibération. Vous avez la parole.
Merci. Monsieur le maire, chers collègues, nous voterons favorablement cette délibération visant à renommer l'espace jeunesse en espace socioculturel Joséphine Becker. Il n'y aura donc pas de suspense sur ce point. Ce choix nous semble pertinent. Joséphine Becker, ça a été rappelé, incarne des valeurs fortes, la culture, l'émancipation, le courage, l'égalité, la fraternité, mais aussi l'engagement contre le racisme et pour la liberté. Ce sont des valeurs qui doivent trouver toute leur place dans un équipement municipal ouvert aux jeunes, aux familles, aux associations, aux adultes et aux seniors. La note de présentation rappelle d'ailleurs que cet espace n'est plus seulement un lieu destiné aux jeunes, mais un véritable équipement socio-culturel avec un pôle jeunesse, un pôle prévention et un pôle culturel ouvert à différents publics et pensé comme un lieu réellement intergénérationnel. Nous saluons donc cette évolution, à condition qu'elle ne soit pas seulement symbolique. Donner le nom de Joséphine Becker à cet équipement doit aussi nous engager concrètement à renforcer l'accès à la culture pour toutes et tous, à soutenir les initiatives citoyennes, à favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle et à faire vivre réellement les valeurs de tolérance et du vivre ensemble qui ont été rappelées. Nous serons donc attentifs à ce que cette nouvelle dénomination s'accompagne d'une vraie ambition pour ce lieu, davantage de participation de tous les publics et une programmation à la hauteur du nom qu'il portera désormais. Pour toutes ces raisons, je le rappelle, notre groupe votera pour cette délibération.
Merci. Je propose donc de mettre aux voix qui vote contre, qui s'abstient, unanimité. Je vous remercie. J'ai omis de mentionner au démarrage de cet ordre du jour que je retirerai le point 20 portant sur l'exonération de la taxe locale sur la publicité extérieure au profit d'un établissement commercial. Ce dossier doit être davantage approfondi, donc nous le retirons de l'ordre du jour. Le point suivant sera présenté par Patrick Segala.
Merci, Monsieur le Maire. Pour une collectivité territoriale, en fin d'exercice budgétaire, il convient de procéder à la clôture des comptes. Et l'arrêté des comptes correspond à l'élaboration et l'adoption du compte financier unique par le Conseil municipal, ce qui est le cas ce soir pour l'exercice budgétaire 2025 de la commune de Charenton. Le compte financier unique est établi conjointement par l'ordonnateur de la commune, M. le maire, et le comptable public, le représentant donc de l'administration de la Direction générale des finances publiques. Sont du ressort du comptable public les éléments du compte financier unique présentant tous les comptes mouvementés au cours de l'exercice. Le maire, quant à lui, établit les parties du compte financier unique qui retracent l'ensemble des opérations budgétaires. On y retrouve donc les recettes et les dépenses réalisées, et inclut également celles qui ont été seulement engagées. En outre, le compte financier unique va permettre de déterminer le résultat comptable de l'exercice passé qui sera repris au budget suivant. Le compte financier unique doit être voté avant le 30 juin de l'année N+1, donc nous sommes suffisamment en avance, donc soit l'année suivant la fin de l'exercice budgétaire pour lesquels sont clôturés les comptes, et ce même compte financier unique sera transmis à M. le préfet au plus tard le 15 juillet. Vous l'aurez donc compris, ce qui vous est présenté ce soir est le résultat d'un véritable marathon comptable mené principalement par notre administration, son directeur général des services, que je remercie très chaleureusement. Merci à l'ensemble des services pour ce travail accompli à l'initiative de la parfaite réalisation du budget 2025, réitérant ainsi nos récents remerciements pour l'élaboration du budget 2026. Un perpétuel mouvement budgétaire où les exercices vont s'enchevêtrer. L'exercice 2025 a débuté au cours du second semestre 2024 pour toute la préparation budgétaire, puis le débat d'orientation budgétaire en décembre 2024, ici même en conseil municipal, lequel a adopté le budget primitif 2025 en février, permettant ainsi l'exécution jusqu'au 31 décembre 2025. Et donc de nous retrouver enfin à l'approbation des résultats constatés, étape importante. Au-delà de la valeur légale de notre vote, il permet donc d'offrir le cadre du budget suivant en assurant cette continuité de par la reprise des résultats. Merci également à la direction des finances, sa directrice, son équipe et son responsable de pôle qui ont travaillé sur l'édification de ces nombreux documents budgétaires en votre possession et qui ont permis d'avoir ce rôle de suivi et de contrôle permanent sur l'ensemble de nos comptes en pleine conformité avec l'action de M. le maire et de sa majorité municipale. Pour la deuxième année, le compte financier unique est très largement empreint d'une annexe particulière et spécifique, à savoir le budget vert. Le budget vert des collectivités ou évaluation environnementale du budget s'inscrit dans le cadre de la loi de finances 2024 qui impose aux collectivités de plus de 3500 habitants de produire, dans ce même document, une annexe présentant l'impact environnemental sur les dépenses d'investissement. Une obligation qui s'inscrit dans une logique plus large de transparence de l'action publique, de pilotage de la transition écologique et alignement progressif des politiques publiques avec les objectifs climatiques et environnementaux, tant sur le plan national qu'européen. Une première édition en 2024 était centrée simplement sur l'atténuation du changement climatique. L'exercice 2025 intègre un deuxième axe à savoir la biodiversité et la protection des espaces naturels. Sur les exercices suivants, nous verrons d'autres axes arriver. Il nous est donc demandé de mesurer cet impact environnemental sur les investissements de la collectivité, d'identifier les différents leviers d'action en faveur de cette transition et d'éclairer les arbitrages budgétaires et de renforcer notre cohérence entre les politiques publiques. Il s'agit donc d'une démarche à la fois pédagogique, en acculturant tous les services et les élus au sujet de la transition écologique et en orientant progressivement les choix d'investissement. Sur la méthode, je le rappelle, deux axes à ce jour sont retenus. L'atténuation du changement climatique, chaque dépense est évaluée au regard de sa contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et le second, la préservation de la biodiversité, il repose sur une logique similaire appliquée aux impacts sur les milieux naturels. Les dépenses sont alors classées selon une échelle en 5 niveaux. S'agissant de notre exercice pour Charenton, contrairement à 2024, où l'analyse portait sur un nombre limité de natures comptables, le périmètre de l'analyse obligatoire correspond désormais à l'ensemble des dépenses réelles d'investissement, soit plus de 10 915 000 euros. Un élargissement prévu par la réglementation qui permet une vision plus exhaustive sur cet impact environnemental. Afin de concentrer l'analyse des masses financières les plus significatives, un seuil de 90% a été appliqué, comme l'an passé. Donc nous serons sur un volant d'un peu plus de 9 800 000 pour faire cette analyse. Analyse réglementaire qui va nous permettre donc de différencier les catégories. Nous avons, pour faciliter l'exercice, regroupé l'avis très favorable et favorable pour avoir quelque chose de beaucoup plus lisible. Le changement climatique, premier axe, sur un total donc de 9 829 000 euros, nos actions se déterminent par rapport à une méthode retenue et reconnue à 47,6% favorable, 49,6% neutre, 1,8% défavorable, 1% non coté. Des résultats qui traduisent une orientation globalement positive du budget d'investissement et une dynamique qui repose sur plusieurs leviers structurants, rénovation énergétique du patrimoine communal, évolution progressive des équipements municipaux et le développement des mobilités décarbonées. Le deuxième axe, la préservation de la biodiversité, même périmètre des dépenses, le résultat 11,1% favorable, 63,6% neutre, 0,1% défavorable, 25,2% non coté. Cette analyse de biodiversité fait apparaître une dynamique encore en construction, avec une part favorable plus limitée, comme vous avez pu le constater. Dépenses favorables concernent principalement les opérations de végétalisation, de renaturation. En termes d'analyse, sur ces deux axes, nous pouvons retenir que la part élevée des dépenses favorables en atténuation, qui plus est en comparaison de la passée, confirme que les politiques d'investissement de notre ville intègrent déjà de manière concrète les enjeux climatiques, en particulier sur les secteurs à fort impact que sont les bâtiments et les mobilités. Cependant, l'exercice connaît rapidement des limites avec l'intégration du deuxième axe. Ce dispositif mérite d'être largement amélioré par ceux qui en font la commande. Nous acceptons bien évidemment la démarche pour la soutenir, mais nous attendons de réels ajustements afin que nous n'ayons plus, pour illustration, à constater une dépense mixte sur les deux axes, favorable pour le premier et défavorable pour le second, qui est évidemment extrêmement paradoxal. Pour autant, notre action environnementale est largement reconnue dans le premier axe le plus abouti, ce qui doit être un élément significatif partagé ce soir par chacun d'entre nous. Je reviens sur l'économie générale du compte financier unique de la commune de Charenton et sur son échelle comptable qui se présente donc avec un résultat net comptable cumulé de 22 702 109,18 euros. Hors intégration des résultats passés, l'exercice 2025 affiche un résultat net réalisé en section de fonctionnement positif de 5 160 942 euros. Et un résultat net réalisé en section d'investissement négatif de 6 602 231,98 €. Le résultat global cumulé avec les restes à réaliser en investissement s'élève donc à 29 972 500 euros. Dernier élément de contexte chiffré pour ce compte financier unique, les restes à réaliser en section d'investissement uniquement se déterminent sur un solde positif d'un peu plus de 7 270 082 euros. Plus en détail. Les dépenses de fonctionnement 2025 se réalisent à hauteur de 78%. Le taux est de 94% pour les dépenses réelles de fonctionnement au regard d'un budget prévisionnel d'un peu plus de 68 825 000 euros, un réalisé de 64 680 000 euros, soit une baisse de 742 000 euros par rapport à 2024. Également un taux de 94% sur les dépenses de gestion courante en termes de réalisation, ce qui démontre notre gestion maîtrisée et sécurisée tout au long de l'année 2025, écartant tout risque éventuel. Toutes les prévisions de 2025 ont été plus que justifiées, quelle que soit la variation, toutes très proches ou totalement dans la cible. Dans un premier temps, les charges à caractère général sont les dépenses directes de l'ensemble des services. Se stabilise à hauteur de 14 290 000 euros, soit moins 780 000 euros au regard de 2024. Elle se réalise à hauteur de 94,6% du prévisionnel. L'examen de tous les postes budgétaires en commission des finances semaine dernière a permis d'observer que la grande majorité des taux de réalisation se situaient dans la fourchette vertueuse de 80 à 100%. Tous les efforts de gestion opérés sur l'ensemble des services y contribue, mais aussi la non-réalisation des principales provisions nécessaires à la prévision du risque. On notera parfois des dépassements sur le volet eau et assainissement, plus 49 000, sur la maintenance bâtiment, plus 91 000, ou sur l'entretien voirie, plus 51 000. Enfin, un point sur les dépenses énergétiques, qui sont plus que maîtrisées dans le cadre de l'enveloppe budgétaire. La facture électricité bâtiment est en baisse en comparaison de 2004 de 500 000 euros, comme celle de l'éclairage public de 25 000 euros. La facture gaz diminue de 150 000 euros. Celle du chauffage urbain va se situer un petit peu au-dessus pour plus de 2 000, alors que les carburants diminuent pour moins 14 000 euros. Dans un deuxième temps du compte financier unique 2025, les résultats des charges de personnel affichent un taux de réalisation de 93% de consommation des crédits pour une dépense totale de 30 174 000 euros. En 2024, nous avions constaté une dépense de 31 473 000 euros pour une diminution conjoncturelle d'un peu plus de 1 million d'euros environ. Cette variation des dépenses de personnel entre 2024 et 2025 est plus significatif pour les titulaires, pour les contractuels. Un net ralentissement des équivalents temps plein se distingue depuis le second semestre 2024 et s'est prolongé tout au long de l'année 2025. 2025, c'est 20 recrutements contre 47 départs, marqués par des départs en retraite du fait de la pyramide des âges. Ce problème, évidemment, ne concerne pas uniquement la ville de Charenton, mais est étendu à d'autres communes de Munstrate, notamment en Île-de-France. D'ailleurs, comme l'ensemble des collectivités, la commune est aujourd'hui confrontée à un marché de l'emploi particulièrement tendu sur certains métiers. Secteur connaît des difficultés de recrutement récurrentes comme l'enfance, la petite enfance, services nature et jardin, domaine bâtiment. Alors, bonne nouvelle parce que le début de l'année 2026 se montre plus propice avec un afflux de candidatures plus conséquent et donc un niveau de recrutement prometteur. Les autres charges de gestion courante se situent à un niveau honorable de plus de 98% de réalisation, qui démontre une grande stabilité au regard de l'exercice précédent. Même stabilité sur chaque ligne, majoritairement entre 90 et 100% de réalisation. Le volet le plus significatif porte sur les subventions de fonctionnement aux associations, où la collectivité a fait même un effort de plus de 3 700 euros par rapport à la prévision. Les charges financières, 99,28% de réalisation et atténuation de produits, 83%, se situent dans la lignée des exercices précédents. Elles révèlent la parfaite tenue de nos comptes. S'agissant de la dette de notre ville, elle ne cesse de décroître depuis 2005. Pour la 21e année consécutive, la ville de Charenton n'a eu recours à aucun nouvel emprunt dans la réalisation de ses investissements en Gondon. Enfin, sur ce chapitre, nos contributions aux deux fonds de péréquation, le FSCIF et le FPIC, comme celle du territoire pour 12 422 860 euros, ou le nouveau dispositif de prélèvement obligatoire de l'État illico pour 788 000, se retrouvent légèrement minorés au regard de l'estimation initiale, mais contribuent donc largement aux éléments cités dans la constitution de l'excédent global positif que nous pouvons constater pour l'année 2025. Deuxième volet, les recettes de fonctionnement qui offrent des résultats très satisfaisants dans le cadre du fonds financier unique, un taux d'exécution de 104,11%, calculé des recettes réelles au regard de la prévision initiale, une constante établie après 2024, toujours au-dessus de la prévision, notre prudence de rigueur aux recettes est nécessaire et attendue liée à notre maîtrise des éléments budgétaires. En grande partie par rapport à nos objectifs budgétaires et confirme cette solidité de notre socle ressources afin de respecter la totalité de nos engagements. Très attentif sur ce volet, nos recettes ont légèrement progressé en comparaison avec l'exercice précédent. Elles atteignent 71 700 000 euros et représentent un peu plus de 1 880 000 depuis 2024. Trois principaux socles de nos recettes de fonctionnement, avec une trajectoire respective d'une part sur les produits de services, avec une évolution de plus 853 000 euros, le produit de fiscalité qui s'accroît d'un peu plus de 1 080 000 euros, et puis le produit des dotations qui diminue inéluctablement de moins 466 000 euros. Vous l'aurez compris, ce sont les aides de l'État. Heureusement, la CAF est toujours là pour nous maintenir et pour nous porter dans les différents secteurs que sont la petite enfance, le service jeunesse ou l'enfance. Rapidement en détail, les produits de services sont réalisés à hauteur de 105,7%. On va y retrouver majoritairement donc, la petite enfance, la restauration scolaire et toutes les autres prestations. Nous allons être à chaque fois au-dessus de cette ligne de flottaison prévisionnelle donc, qui avait été fixée au cours du budget primitif. Dans une même démarche plus affinée, le chapitre impôts et taxes révèle une réalisation de 101%, donc légèrement supérieure aux prévisions. Il convient de rappeler que les contributions directes ont uniquement été majorées par la revalorisation des bases fiscales de 1,7%, qui est le taux d'inflation fixé par la loi de finances. La ville de Charenton a invariablement maintenu ses taux de fiscalité, aucune augmentation depuis 2010. Enfin, dans le cadre de ces retraites, les droits de mutation, la taxe de séjour, sont plus au-dessus de la prévision, reflet d'une belle attractivité de notre commune, à la fois sur les secteurs immobiliers et tourisme. Enfin, pour être totalement complet, les dotations, dont j'ai évoqué rapidement un petit peu les éléments, se retrouvent avec donc cette différence positive par rapport à la prévision, mais en négative par rapport à la réalisation de l'année précédente, donc cette somme de dotation qui concerne différents dispositifs et que nous devons justement porter par rapport à nos différents services. Le soutien financier de la CAF, j'y reviens, est extrêmement important, essentiel, avec 121% de réalisation au-delà de ce qui avait été prévu initialement avec cette instance. L'allocation compensatrice de la métropole, autre élément important, reste stable à plus de 21 244 000 euros. Enfin, nos produits financiers sont une manne non négligeable au regard des intérêts de nos placements pour un montant total de 513 050 euros en 2025. À la suite de la section de fonctionnement, la section d'investissement présente des dépenses initialement inscrites à hauteur de 19 213 861 euros, réalisation d'un peu plus de 11 278 000 euros, 58,7%, réajusté à 66% par l'intégration des restes à réaliser d'un niveau d'un peu plus de 1 422 000 euros. c'est 11 278 000 euros, est un niveau record avec une augmentation de 1,3 million en 2025 au regard de l'exercice précédent. Les dépenses d'équipement ont augmenté de plus de 1 230 000 euros avec essentiellement les opérations gérées en autorisation de programme crédit de paiement, c'est-à-dire ces opérations que nous suivons année par année et qui permettent donc de planifier les dépenses d'investissement tout en pouvant les réactualiser et les revaloriser. Voici ce que les AP fixent le montant total de l'opération alors que les crédits de paiement correspondent aux crédits ouverts chaque année pour payer les dépenses. La réalisation donc des opérations en investissement majeures en investissement est en augmentation par rapport à 2025. C'est tout le dynamisme et le rayonnement de la ville de Charenton qui apparaît et qui transparaît dans cette description. Dans ce cadre, aucune somme n'est enregistrée en reste à réaliser car nous le réactualisons chaque année comme je vous l'indiquais. Nous identifions alors tout le détail du dispositif. En 2025, dans ce programme pluriannuel, nous avions 9 opérations, le plan vélo, les travaux de rénovation sur l'école Briand, la création du jardin de l'hôtel de ville, la rénovation du stade Henri Guérin, l'aménagement du parc de stationnement et du centre médical Jean Jaurès, la végétalisation du quartier Coupole-Marseillais, la rénovation de la route commandant Delmas, l'extension du CSU et des locaux de la police municipale, et enfin le contrat de performance énergétique. Hors APCP, donc hors ce programme pluriannuel, nous retrouvons les autres dépenses d'investissement réelles représentant un peu plus de 7 400 000 euros de crédit ouvert avec une réalisation à hauteur de 4 100 000 induisant un niveau de 1 422 000 de crédit annulé. Regroupe ce que l'on appelle les opérations de plan pluriannuel d'investissement avec tous les autres projets de travaux, d'investissement, d'acquisition qui peuvent aller au-delà d'une année pour la collectivité. Mais ce sont également les dépenses de gros entretien et de renouvellement qui concernent les investissements liés au maintien et au renouvellement des équipements, bâtiments et services de la ville. Ils peuvent inclure notamment les achats de matériel, logiciels, véhicules, ainsi que la participation versée à la brigade des sapeurs-pompiers pour les investissements. Ces opérations d'investissement hors APCP sont en augmentation de plus 135 000 euros, passant à 1 350 000 en 2024 à 1 490 000 en 2025. On y retrouve notamment le réaménagement du local 14-8-16 de Marty pour 538 000 euros, travaux d'aménagement du square du 11 novembre pour 440 000 euros, les travaux relatifs à la vidéoprotection pour 287 000 euros. Les opérations de gros entretien et renouvellement se sont élevées, quant à elles, à 2 290 000 euros. Sur le prisme comptable, les immobilisations incorporelles, c'est une réalisation de 45,34%. On y retrouve les frais d'études, acquisition de logiciels, le volet urbanisme avec la partie préemption de faux commerciaux, et puis notre participation aux travaux ascenseurs de Vaubilio, qui va se poursuivre sur les prochains budgets. Le volet immobilisation contractuelle avec une enveloppe initiale d'un peu plus de 5 millions a été réalisé à hauteur de 91,34%. Le chapitre 23, immobilisation en cours, donc ce sont plutôt la partie travaux, a été réalisé à hauteur de 94,58%. Et on y retrouve donc des travaux de voirie, d'éclairage, notamment sur la piste Diagana, sur la signalisation, l'aménagement urbain et la vidéoprotection. On y retrouve bien évidemment le chantier 14 de Marseille. Cette section contient également notre part de remboursement des 3 emprunts restants avec une réalisation au niveau de la prévision. Je rappelle que la dette n'a cessé de diminuer depuis 2025, comme je l'ai pu l'indiquer précédemment. Enfin, l'enveloppe des dépenses de prévision sur reversement de 2005. Et donc, la ville n'a pas contracté de nouvel emprunt pour réaliser ses investissements en 2025, d'où ma confusion. Voilà, donc, vous voyez à nouveau cette démarche de non-emprunt pour assurer les travaux d'investissement. Et donc, je disais que la les dépenses de provision sur reversement de différentes taxes pour plus de 100 000 euros. Dernière enveloppe que je souhaitais indiquer n'a pas été augmentée non plus pour se retrouver dans le volant des crédits annuels. Très rapidement, les recettes réelles d'investissement, le dernier volet budgétaire donc de ce compte financier unique, ont été réalisées à hauteur de près de 2 800 000 euros pour des restes à réaliser d'un peu plus de 8 692 514 euros. C'est tout d'abord les subventions d'investissement perçues de la part de l'État, de la région, du département, de la métropole et plus spécifiquement de certains syndicats, le CIPEREC, le CIGEP, l'agence LO au Seine et Normandie ou d'autres, des sociétés comme Humanus qui s'élèvent à hauteur de 522 380 euros perçus en 2025. Ce qui veut dire que la part des restes à réaliser sur les subventions est extrêmement importante. Donc des subventions que nous allons percevoir avec un décalage, un écart dans le temps, et donc elles s'élèvent à un peu plus de 5 460 000 euros. Les autres recettes d'investissement qui peuvent être citées sont le FCTVA, Fonds de compensation de TVA, c'est la récupération de TVA sur les travaux d'investissement, pour un peu plus de 2 113 214 euros. Là aussi, c'est un niveau exceptionnel, mais tout à fait conforme au niveau d'investissement produit sur, au moins sur ces deux dernières années. Et enfin, la taxe d'aménagement, ex-TLE, pour 79 199 euros. Enfin, un reste à réaliser sur produit de cession de 3 200 000 pour l'opération au 170 rue de Paris. Voici les éléments descriptifs de ce compte financier unique 2025. En conclusion de cet exposé sur les résultats budgétaires 2025 de notre commune, un premier constat se porte sur le niveau des résultats constatés et conformes à la prévision sur lesquels, à nouveau, des remerciements sont formulés pour toutes celles et ceux qui ont œuvré sur ce compte financier unique 2025. La qualité des résultats en fonctionnement est à souligner et nous le devons en grande partie aux services qui ont su contribuer à cet effort collectif de réduire leurs prévisions de dépenses de fonctionnement de 5% pour 2025. Si aujourd'hui nous sommes excédentaires sur cette section de fonctionnement, nous constatons un déficit très marqué en investissement, en partie par des recettes que nous n'avons pu encore capter, mais qui demeurent en réserve pour l'exercice à venir. En effet, le niveau 2025 d'investissement réalisé est à son apogée et concerne tous les secteurs. Les grandes opérations inscrites en cours de mandat précédent ont su trouver leur point d'aboutissement avec, pour l'essentiel, une assise budgétaire offrant l'assurance de leur réussite. Charenton a parfaitement réussi son examen d'exécution budgétaire 2026 parce que son maire, sa majorité municipale, sait bâtir et ambitionner des budgets cohérents qui se succèdent chaque année avec la même préoccupation d'une gestion toujours saine mais surtout très rigoureuse. Encore une fois, les efforts demandés, atteignables dans le fonctionnement des services, se révèlent gagnants pour une envergure d'investissement optimale, une politique solidaire, sociale et environnementale jamais atteinte, un respect total de tous les engagements dans tous les domaines, une qualité de service maintenue à très large et très haute dimension en faveur des Charentonnaises et Charentonnais. Enfin, en ce début de nouveau mandat, pour celles et ceux qui s'interrogeraient encore sur l'impérieuse nécessité de protéger nos excédents, je rappelle que le fonds de roulement de notre collectivité a diminué de moins d'un million d'euros en 2024, légèrement en retrait par rapport à 2023. Il recule encore en 2025 de 1 440 000, ce qui signifie que nous ne sommes pas enchaînés au totem excédent, bien au contraire, et que cette situation doit nous inviter collectivement à contrôler, maintenir nos efforts déjà engagés dans la rationalisation de nos dépenses et l'optimisation de nos recettes. L'avenir des finances locales dans notre pays n'est pas du tout assuré et quiconque ne peut imaginer quel sera le lourd tribut annoncé des collectivités locales à l'effort de redressement des finances de la France une fois l'échéance démocratique 2027 franchie. Notre cheminement budgétaire doit prendre en compte aussi cela, conjugué aux difficultés essuyées avec les différentes crises que nous avons subi ces dernières années et que nous subissons encore. Et parallèlement, notre seul objectif commun est d'assurer un réel avenir dans tous les projets communs au sein de notre collectivité, de construire et consolider chaque prochaine année pour le seul bien de toutes les Charentonnaises et les Charentonnais, d'offrir et de porter le meilleur aux jeunes générations. Merci, Monsieur le maire.
Merci, Monsieur Segala, et merci pour les quelques applaudissements étouffés. Je m'associe naturellement aux compliments vis-à-vis de Patrick Segala et j'adresse mes remerciements naturellement à la Direction Générale et à la Direction des Finances en particulier pour l'accomplissement de cette année 2025 qui était une année charnière, je crois, en matière d'investissement tout particulièrement, mais aussi, peut-être en échanger dans un instant, mais aussi de redressement de notre autofinancement, ce qui est absolument crucial pour préparer et permettre l'exécution dans de meilleures conditions de l'exercice 2026 et surtout de préparer les années suivantes pour le moins incertaines. Donc, merci M. Segala d'avoir apporté ce dossier et d'avoir supervisé l'exécution de l'exercice budgétaire 2025 tout autant qu'il supervise aux côtés de l'administration l'exécution de l'exercice en cours. Voilà, je évidemment propose la parole à M. Lissani.
Monsieur le maire, chers collègues, le compte financier unique 2025 est un document important. Il ne s'agit pas seulement d'un document comptable, il permet de regarder concrètement comment le budget voté a été exécuté, quelles recettes ont réellement été encaissées, quelles dépenses ont réellement été réalisées et donc quels choix politiques se traduisent ou non dans les faits. Nous ne contestons pas la régularité comptable du CFU. La note de présentation rappelle d'ailleurs que le compte financier unique remplace désormais le compte administratif et le compte de gestion. Mais au-delà de la forme comptable, ce document appelle plusieurs remarques politiques. Le premier élément marquant est le niveau très élevé des excédents. Le CFU 2025 fait apparaître un résultat de clôture à plus de 22,7 millions d'euros. Après intégration des restes à réaliser, le résultat cumulé atteint près de 30 millions d'euros. C'est une situation financière très confortable pour la commune. Évidemment, disposer de marges financières est une bonne chose. Une ville doit être bien gérée, prévoir l'avenir et conserver une capacité d'action. Mais lorsque les excédents atteignent un tel niveau, il faut aussi se poser une question simple. Pourquoi ces marges ne sont-elles pas davantage mobilisées pour répondre aux besoins concrets des habitants? À Charenton, les besoins existent. Rénovation du patrimoine communal, école publique, adaptation de la ville au changement, aux fortes chaleurs, végétalisation, mobilité douce, solidarité, équipement public, jeunesse, démocratie locale. Dans ce contexte, un excédent important ne peut pas être présenté uniquement comme un signe de bonne gestion. Il peut aussi se traduire une forme de prudence excessive et un décalage entre les moyens disponibles et les réalisations concrètes. Le deuxième point de vigilance concerne l'investissement. Les dépenses réelles d'investissement étaient prévues à hauteur de 19 millions d'euros. Mais seulement 11 millions d'euros ont été réalisés, avec un taux d'exécution de 58%. Et même avec les restes à réaliser, le taux reste limité à 66%. C'est un point important, cela signifie qu'il existe un écart significatif entre les investissements annoncés, votés ou budgétés, et les investissements réellement exécutés dans l'année. Certains projets ont bien avancé, la rénovation thermique de l'école élémentaire Briand, le contrat de performance énergétique, la végétalisation du quartier de la Coupole, ou encore le parc de l'hôtel. Mais globalement, le rythme d'exécution reste insuffisant. Le troisième sujet concerne les recettes d'investissement. Or, reste à réaliser, les recettes réels d'investissement ne sont exécutés qu'à 26%. Avec les restes à réaliser, l'exécution atteint 106%, ce qui montre le poids très important des reports dans la lecture globale du budget. Nous entendons, en commission, l'argument selon lequel une partie de recettes et de ces dépenses s'inscrit dans des projets pluriannuels. C'est vrai, certains investissements se construisent sur plusieurs exercices, notamment lorsqu'ils concernent des travaux lourds, des marchés publics, des subventions attendues ou des opérations d'aménagement. Il est donc normal qu'une partie de ces crédits ou de ces recettes soit reportée d'une année sur l'autre. Mais cet argument ne peut pas à lui seul tout justifier. Les restes à réaliser représentent ici des montants très importants, avec pratiquement 9 millions d'euros en recettes d'investissement à reporter et pratiquement 1,5 million d'euros de dépenses d'investissement à reporter, soit un solde positif de à peu près 7 millions d'euros. Nous voulons bien entendre que ces recettes reportées sont certaines et sécurisées, mais ça suppose un suivi précis et transparent. Nous devons être attentifs aux projets qui expliquent ces décalages, au calendrier de leur réalisation et à la manière dont la ville compte améliorer le réalisme de sa programmation budgétaire. Nous voulons que les crédits votés ne restent pas trop longtemps sur les lignes budgétaires, mais se traduisent plus rapidement en réalisation concrète pour les habitants. Nous notons également que la ville n'a pas eu recours à l'emprunt en 2025 et il s'agit de la 20e année sans nouvel emprunt. C'est évidemment un point positif en matière de maîtrise de l'endettement, mais cela pose aussi une question politique. Une commune aussi peu endettée, avec ce niveau d'excédent aussi élevé, ne pourrait-elle pas investir davantage sans mettre en danger ses finances? Enfin, nous voulons dire un mot sur le budget vert. L'existence de cette annexe est une avancée utile. Elle permet de commencer à objectiver l'impact écologique des dépenses d'investissement. Nous demandons donc que le budget vert devienne un véritable outil d'aide à la décision et pas seulement une annexe descriptive. Il doit permettre d'orienter les choix budgétaires vers la transition écologique, l'adaptation au changement climatique et l'amélioration concrète du cadre de vie. Pour résumer, nous ne contestons pas la sincérité comptable du CFU. Nous constatons même que la commune dispose d'une situation financière solide. Mais nous ne pouvons pas ignorer les réserves politiques que révèle cette exécution budgétaire, un excédent très important, un taux d'exécution d'investissement trop faible, des recettes d'investissement fortement dépendantes des reports et un budget vert encore perfectible. Pour ces raisons, nous ne voterons pas contre un document comptable de constat. En revanche, nous nous abstiendrons afin de marquer clairement nos réserves sur des choix politiques que révèle cette exécution budgétaire. Notre groupe s'abstenir sur ce délai. Merci.
Merci beaucoup. Est-ce que M. Segala a quelques remarques, observations à faire? Oui, non? Oui.
Oui, très, très rapidement par rapport aux quatre points qui ont été indiqués. Oui, sur le niveau des excédents, je l'ai indiqué dans mon propos, j'ai dû dire qu'on n'était pas enchaîné au totem des excédents et j'ai essayé de les démontrer en indiquant que justement cet excédent, il subissait une érosion année par année, ce qui montre bien que de toute façon, on est vraiment dans la démarche de ne pas conserver précieusement un niveau d'excédent, mais bien de l'utiliser à bon escient et pas simplement sur le court terme. Je crois que c'est toute la longueur de vision et de travail budgétaire que nous devons avoir par rapport à cet excédent, et nous l'avons largement enclenché. Sur la partie investissement, vous indiquez que la réalisation est, vous l'avez dit, 66%. C'est un taux exceptionnel. Nous sommes à plus de 11 millions. Regardez un petit peu les communes de même strate, si elles ont été en capacité de mener 11 millions. Et pourquoi nous n'arrivons pas à ce genre de résultats supérieurs à 70%? Eh bien, ce sont tous les aléas, notamment les aléas techniques, qui font qu'il y a un décalage dans le temps. Évidemment, le mois de décembre ne va pas être un mois où tout va aller se précipiter pour pouvoir justement réaliser. Et vous vous rendrez compte, et les restes à réaliser en sont la parfaite illustration, qui est d'ailleurs votre troisième point, même si vous avez plus insisté sur les recettes, mais il y a aussi des dépenses, investissements. Elles sont toutes engagées. Et l'engagement veut bien dire ce qui est, c'est non seulement elles sont sûres, mais elles seront réalisées. Il suffit de nous laisser un petit peu plus de temps au principe de l'annualité, c'est-à-dire au-delà du 31 décembre. C'est juste une question de calendrier. Voilà ce que je pouvais indiquer très rapidement.
Oui, bon, sur un budget global qui présente un résultat cumulé tel que Patrice Segala l'a décrit, je voudrais relativiser l'excédent que vous mentionnez ici, puisque tout d'abord il est aussi cumulatif de l'exercice passé, d'une part. Et deuxièmement, si on regarde spécifiquement sur la partie fonctionnement qui contribue pour l'essentiel à l'excédent qui est rappelé ce soir, on le doit majoritairement à un complément de recettes de fonctionnement. Et ces recettes de fonctionnement, elles voisinent 1 900 000 euros de plus que ce que nous avions initialement inscrit, pour un montant de recettes de à peu près 72 millions d'euros réalisation effective de l'exercice. Donc, effectivement, il faut relativiser la portée de l'excédent de l'exercice 2025 en tant que tel. Et ce qui contribue aussi à cet excédent, on le doit pour partie à une moindre consommation des dépenses pour un montant légèrement inférieur à 900 000 euros. Et à l'intérieur de cette moindre consommation de dépenses, on trouve pour l'essentiel des dépenses de personnel qui n'ont pas atteint effectivement ce que nous avions initialement estimé ou prévu, pour toutes les raisons que Patrick Segala a rappelées, c'est-à-dire des départs à la retraite, des remplacements qui se font ou qui s'échelonnent. Quand ils se font, ils s'échelonnent. Quand ils, dans certains cas figure, ils ne se produisent pas. J'ai exposé en propos liminaire la difficulté que nous rencontrions à recruter des jardiniers. C'est une réalité, tout comme nous avons des difficultés à recruter des animateurs, et on ne recrute pas n'importe quel animateur, confère l'actualité parisienne, et on a des candidats divers et variés. Si je puis m'exprimer ainsi, sans filer la métaphore, et cela contribue en effet à ce que les crédits de charge de personnel ne soient pas pleinement utilisés tels que nous l'avons configuré. Mais ça démontre quand même une chose, c'est que la ville a la capacité de déployer effectivement des moyens pour assurer le fonctionnement du service public, et j'allais dire bien au-delà de ce qu'on peut constater dans la moyenne des autres villes. Et de ce point de vue-là, je pense que Charenton est plutôt situé en rapport de la dépense de fonctionnement par rapport à sa population, elle est plutôt sur la fourchette haute. Et j'ai plutôt tendance à rappeler à l'administration qu'il faut veiller à contraindre la dépense, parce que nous avons un niveau de service public à Charenton, dans la strate de population qui nous importe, hein, bien entendu, effectivement plus élevé qu'ailleurs. Vous irez progressivement constater les ratios de dette ou de dépenses, pardon, de fonctionnement par habitant. Vous verrez que Charenton est dans la fourchette haute. Voilà. Et donc, c'est historique. C'est le niveau étoffé des services publics de la ville. Et c'est particulièrement le cas dans le secteur de la petite enfance. Je me tourne vers ma collègue Nicole Menoux qui va se dire que le secteur de la petite enfance est pointé. Non, il n'est pas pointé, il est juste qualifié comme étant l'un des services de petite enfance dans le Val-de-Marne les plus étoffés rapportés à sa population. Tout ça coûte excessivement cher. Et ce n'est pas de ma part, dans mon propos, une volonté de réduire. Bien au contraire, on n'a fait qu'étoffer le service de la petite enfance dans cette ville au cours du mandat précédent. Et l'illustration la plus marquante étant la bonification de la CAF par rapport au service de la petite enfance qui se traduit encore cette année, plus exactement au cours de l'exercice 2025, par un complément de recettes versé par la CAF parce que nous sommes considérés comme bons élèves et parce que nous sommes considérés comme participants davantage que les autres à l'effort de l'accueil de petite enfance. Et c'est ainsi que nous avons perçu, je crois, environ plus de 280 000 euros de bonus au titre de l'attractivité de la petite enfance par la CAF. Recette qui n'était pas initialement estimée, prévue. Bon, tant mieux pour nous. Et ça contribue effectivement à l'excédent que vous relatez. Ensuite, s'agissant de l'exécution de l'investissement, naturellement dans les propos de Patrick Segala. Conduire un projet d'investissement aujourd'hui, mais c'est laborieux. Et je n'incrimine pas ici l'administration communale, et au sein de cette administration, pas particulièrement les services techniques, mais c'est de plus en plus délicat. Conduire une consultation, se tourner vers le bon bureau d'études, la bonne maîtrise d'œuvre qui va effectivement configurer un projet. Et lorsqu'il travaille correctement, il arrive parfois qu'il faille les tenser. Je me tourne vers mon premier adjoint pour me rappeler que la conduite du chantier de réhabilitation et notamment de traitement thermique de l'école Aristide Briand nous occupe encore un petit peu aujourd'hui et encore ce soir. Ça fait combien ? 2 ans et demi, 3 ans qu'on est sur le sujet. 3 ans qu'on est sur le sujet et on aboutit péniblement à la fin de cette opération. 3 ans. On a mis 4 millions d'euros dans cette opération. Donc les moyens ne manquaient pas, mais le calendrier est infiniment long. Pour toute raison, des avatars, une maîtrise d'œuvre pas toujours vaillante, pas toujours vigilante, ça existe aussi, et dans le cas de figure de Briand, je le confesse volontiers, elle n'est pas vigilante. Voilà. Ce qui fait que, au titre des APCP, on a étiré le sujet à l'envi sur une des plus grosses opérations d'investissement qu'on ait eu à conduire au cours de l'exercice 24-25. Donc, l'exécution, pour 2025, ça, je corrige un peu votre propos, je pense qu'il faut plutôt s'honorer d'avoir atteint 11 millions d'euros d'investissement, parce que, tendanciellement, vous risquez d'observer plutôt une décrue du volume d'investissement que la collectivité sera capable de consentir au cours des années à venir, parce que la question des moyens sera aussi posée le moment venu, hein, c'est clair. Bon. Et puis enfin, s'agissant des excédents, alors moi je vous reconnais tout à fait le propos que vous venez de porter aussi pour dire on est tous là pour se satisfaire ou se réjouir ou se satisfaire d'un excédent. Il est de votre point de vue important et nous devrions effectivement l'utiliser à bien d'autres choses, mais là encore, pourvu qu'on soit en capacité d'exécuter les choses et les projets d'investissement, et comme je viens de l'illustrer, ça n'est pas si simple. Enfin, je nous félicite collectivement d'avoir, au cours de l'exercice 2025, redressé la barre. Redressé la barre, pourquoi ? Parce que nous avions connu une forte décompression, j'utilise ce terme à dessein, au cours de l'exercice 22 et 23, puisque notre épargne brute était tombé à 6,5% en 2022, et pire, elle était tombée à 4,82% au cours de l'exercice 23. Jamais, jamais, cette ville n'avait connu une aussi faible épargne brute dans toute l'histoire de cette commune. Et donc, on s'en est alarmé. L'administration et l'élu en charge des finances, et moi-même naturellement, avons mobilisé l'ensemble des services et l'ensemble des élus en charge des différents secteurs durant le mandat précédent pour dire on stoppe les fusions. Je rappelle que l'épargne brute d'une ville ne doit pas enfoncer, si possible, le seuil des 8% d'épargne brute. Sinon, on commence à rentrer dans la zone de difficultés dangereuses, zones rouges, etc. Et quand on y entre, il est toujours très difficile de remonter la pente. Permet de le dire parce que j'ai une petite expérience départementale pour vous dire que au département, le raisonnement de l'épargne brute, alors c'est pas la même échelle, c'est clair, mais c'est le même principe et le même raisonnement. L'épargne brute du département, on raisonne en décimales. L'exercice 25 ou l'exercice 24, on a fini à 0,1% d'épargne nette. Sur un budget d'1,5 milliard, il nous restait dans les comptes, dans le résultat, grosso modo, 1,5 million d'euros sur un budget d'1,5 milliard. Et donc, qu'on soit dans cette situation ici, où on a connu effectivement une décompression très nette et un redressement parce qu'on a demandé au service de fournir l'effort pour comprimer la dépense, parce que la clé de succès d'un exercice budgétaire, son exécution et puis de sa durabilité, c'est, et de sa longévité, j'allais dire de sa pérennité, c'est, c'est l'excellent fonctionnement et c'est l'épargne brute et versus l'épargne nette. Et à Charenton, ce qui nous a toujours sauvés, et je reconnais dans votre propos que vous vous en félicitez, ce qui nous a toujours sauvés, c'est le zéro endettement. On n'a pas d'endettement ici. C'est ce qui sauve l'exercice. Sans quoi, on serait vraiment dans une grande difficulté, c'est clair. Et donc, le fonds de roulement qui nous reste, mais qui a néanmoins été un peu consommé, un peu érodé au cours des exercices précédents, et qu'il est encore au titre de l'exercice 25, puisqu'on a un peu puisé dans le fonds de roulement pour passer l'année, pour finir l'année, c'est cet autofinancement, non seulement pour l'exercice 26 qui nous évite de recourir à la dette, mais c'est surtout un autofinancement qui nous permet d'envisager le mandat avec une relative sérénité. Modulo, l'échéance 2027, dont personne ne sait ici quelle en sera l'issue, quelle sera la couleur du locataire de l'Élysée et quelles seront ses orientations en matière économique et budgétaire, et notamment vis-à-vis des collectivités territoriales. Vous avez entendu le Premier ministre il y a un mois et demi, lorsque la crise énergétique a sonné, il a dit « il faut qu'on trouve 6 milliards d'euros ». Vous l'avez entendu, vous l'avez eu comme moi. Bon, il faut qu'on trouve encore 6 milliards d'euros, quoi. 6 milliards d'euros pour un pays qui est endetté à hauteur de 1500 milliards d'euros, ça peut paraître l'épaisseur du trait, sauf que ça pèse lourdement dans le 3400 milliards d'euros, mais bon, pas 1500, j'ai divisé la dette par deux. J'appelle le cornu, ça veut lui faire plaisir. 3400 milliards d'euros. C'est l'épaisseur du trait, les 6 milliards à rechercher, mais ça montre à quel point on est dans la panade. Hein. Donc on ne sait pas en 2027 ce qui va se produire. On ne sait pas. Et la préparation budgétaire du dernier trimestre 26, là, ça va être curieux à observer. Hein. Quel budget vont-ils préparer en 2027, sachant que le gouvernement actuel sera encore là pendant 4 mois? Et donc on dit aux collectivités, vous allez encore fournir l'effort pour les 6 milliards qu'il nous faut chercher pour compenser effectivement le surcoût énergétique qui va peser lourdement dans les comptes publics. Ah les gars, on a envie de leur dire, mais arrêtez là, stop, on est déjà étranglés les uns et les autres. Bon, cette année, en 2026, on a échappé, on y reviendra, on a échappé au délico parce que le Sénat a fait pression sur le Premier ministre, sur Matignon, pour éviter que nous soyons encore soumis à ce dispositif. On a payé combien ? 800 et quelques mille euros, grosso modo, sur l'exercice 25, hein, c'est ça, 800 000 euros. et on nous projetait en 2026, avant que Matignon ne fasse marche arrière, on nous projetait 1 200 000, 1 300 000 euros, mais on les prend où? Où les prend-on? Où les prend-on? Voilà, c'est, la réalité est celle-ci. Alors le fonds de roulement qu'il nous reste, qui est, faut le dire, correct, et aux yeux de certaines collectivités confortables, aux yeux d'autres collectivités confortables, ça n'est pas, surtout pas à consommer maintenant. On ne va pas jouer à la cigale alors qu'on nous promet une saison morte dans les années à venir. Hein. C'est clair, c'est ce qui nous attend. C'est au contraire pour nous permettre de passer le mandat dans de moins mauvaises conditions que beaucoup d'autres collectivités territoriales. Et enfin, Benoît Gaillac n'est pas là ce soir pour le dire, mais en tout cas, on partage cette même idée. Je rappelle que l'opération Charenton-Bercy, la grande opération d'aménagement, la collectivité est recherchée, en tout cas elle est identifiée pour contribuer à l'équilibre économique de la ZAC. Et qu'il est inscrit sur le papier, je parle sous le contrôle de l'administration, j'ai à peu près ça en tête, mais on a inscrit au bas mot 32 ou 35 millions de mémoire de contribution de la ville à cette opération durant la décennie que comptera l'aménagement de ce quartier. 35 millions. Vous voyez, quand vous prenez le fonds de roulement et l'excédent que vous rappelez ce soir, qui voisine ce montant, il n'en restera pas grand-chose si l'opération voit le jour. Et donc non seulement il faudra supporter les contributions au titre de ce projet d'aménagement, mais il faudra aussi supporter les préparations budgétaires du mandat à venir, c'est-à-dire 7 ans, durant lesquels on a encore le temps, on a malheureusement encore des occasions d'être un peu plus étranglés par les gouvernements qui vont se mettre en place et qui n'auront, en toute logique, qui auront en toute logique comme feuille de route, d'assainir les comptes de la nation. Il paraît qu'il va falloir effectivement passer à la moulinette encore un peu plus la dépense publique, sans quoi on nous menace ici et là de faillite générale. C'est quand même ce qu'on entend ici et là, les comptes sont au rouge partout. Les faillites d'entreprises atteignent des records, c'est une réalité. Je me permets de le rappeler ce soir. Donc, dans ce contexte-là, les collectivités territoriales ne vont pas sortir grandies ni confortées, bien au contraire, mais contributrices encore, dit-on, par rapport à la situation générale du pays. Donc, on a ça, c'est heureux par rapport à bien d'autres collectivités. Ça va nous servir durant le mandat, en résumé, et ça nous servira aussi pour cette grande opération d'aménagement pour laquelle la collectivité, ou plus exactement notre budget, devra contribuer assez significativement. Voilà ce que je souhaitais ajouter en commentaire. En tout cas, j'ai pris note de votre abstention sur ce CFU 2025 et je salue vraiment, et je souligne et je salue cette position je qualifie de position tout à fait constructive dans cette démarche de début de mandat. Voilà, donc je vais quitter la séance puisque je ne dois pas assister à ce vote. Je vous rappelle juste ce que j'ai entendu. Voilà, je vous laisse officier. Je vous laisse Sylvain Dombier présider la séance.
Juste pour quelques instants. Peut-être que monsieur le maire quitte la salle. Merci à ça parce que le compte administratif étant l'exécution budgétaire, il ne peut pas influencer notre vote et voter pour sa propre exécution. Bien, l'ensemble des groupes s'étant exprimé largement, je vais passer donc aux voix. Nous devons voter, sauf un de ma part. C'est bien cela.
C'est ça.
Donc, qui s'abstient? Il y a 4. Qui s'oppose? Personne. Donc la majorité, je vous remercie. Donc pouvons rappeler Monsieur le maire.
Bien, je vous remercie. Je vais à présent donner la parole à Laurent Le Guil.
Merci, monsieur le maire. Ce dossier qui nous est imposé légalement a pour objet la reprise définitive des résultats de l'exercice 2025 pour le budget 2026 de la commune de Charenton. En effet, le Code général des collectivités territoriales, en l'occurrence l'article L2311-5, dispose que les résultats de l'exercice antérieur sont affectés par l'Assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte financier unique, ce qui vient d'être fait. Préalablement, une reprise anticipée des résultats a été effectuée au budget primitif 2026 lors du vote du 4 février 2026. Ce soir, il est donc nécessaire, en constatant de manière définitive les résultats 2025, de confirmer les reprises de l'excédent de la section de fonctionnement et de l'excédent de la section d'investissement, à savoir, pour ce qui est du résultat de fonctionnement 2025, la somme de 21 605 479,51 €. Ce résultat est donc repris intégralement sur la section de fonctionnement en recettes au compte 002, résultat de fonctionnement reporté. Pour ce qui concerne le résultat d'investissement 2025, il est de 1 096 629,67 €. Ce résultat est également repris intégralement sur la section d'investissement en recettes au compte 001, résultat d'investissement reporté. Pour la dernière information, l'évolution de ce même résultat d'investissement, tenant compte alors du solde des restes à réaliser d'investissement 2025 pour plus de 7 270 402,39 €, s'établit sur un résultat net de la section d'investissement 2025 de l'ordre de 8 367 032,06 €.
Merci. Est-ce que cette délibération appelle des commentaires à la suite de la présentation du CFU? Bien. Écoutez, je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous en remercie. Le point suivant sera présenté par Muriel Mina.
Je vous remercie, monsieur le maire. Chers collègues, cette délibération a pour objet l'attribution de la subvention versée par la ville au Centre communal d'action sociale au titre de l'exercice 2026 pour un montant d'1 240 000 €. Voté le 4 février dernier au budget primitif 2026 de la commune, cette subvention constitue un élément central du fonctionnement du CCAS. Elle est versée en trois temps, sous la forme de deux acomptes de 400 000 €, puis d'un solde de 440 000 €, permettant ainsi d'assurer une gestion financière sécurisée et la continuité des actions tout au long de l'année. Pour l'exercice 2026, le budget de fonctionnement du CCS s'élève à 1 973 282 €. La subvention municipale représentant 63% du budget de fonctionnement de l'établissement. Elle constitue donc sa principale ressource et garantit la mise en œuvre effective de ses missions de service public. Alors, au-delà de son aspect budgétaire, cette subvention traduit de manière concrète l'engagement constant de la ville en direction des publics les plus fragilisés. Elle illustre une politique municipale de solidarité active, de proximité et d'accompagnement des habitants dans leur parcours de vie, permettant au CCAS de déployer un ensemble d'actions, comme par exemple le versement du complément mensuel de ressources en faveur des seniors et des personnes en situation de handicap, disposant de faibles revenus afin de soutenir leur autonomie et leur pouvoir d'achat. Je pense également aux actions favorisant le maintien à domicile avec le portage des repas et la prise en charge de la téléassistance sans condition de ressources et en augmentation dans un contexte de public de plus en plus nombreux, sans oublier bien sûr les activités proposées aux seniors afin de lutter contre l'isolement. À noter aussi les dispositifs d'aide aux familles, à la parentalité par le biais de la parenthèse qui s'est imposée comme un lieu ressource essentiel, enfants, parents, professionnels. Et la série des passes, passes mutuelles, dont l'affiche est actuellement visible sur les panneaux officiels de la ville, à destination des familles monoparentales, des jeunes de moins de 25 ans, des nouveaux retraités et des auto-entrepreneurs. Passeport, passe au vert, passe énergie, passe activité pour les familles monoparentales, passe vélo, sans oublier notre coup de pouce électroménager. N'oublions pas non plus les aides en direction des personnes en situation de fragilité sociale, dans une logique d'accompagnement global, d'accès aux droits. Ou encore les actions liées à la santé, comme le sport sur ordonnance, à l'inclusion et au handicap, à la santé mentale, à travers le Conseil local de santé mentale, le CLSMN. Et enfin, je soulignerai les aides à l'installation des professionnels de santé, notamment pour les primo-installants du pôle médical Cravel. Bref, il serait difficile de citer de manière exhaustive l'ensemble des actions portées par le CCS, tant elles sont nombreuses et diversifiées, et comme vous le voyez, cette subvention ne se limite pas à un soutien financier. Elle constitue un véritable levier opérationnel, permettant au CCS de mettre en œuvre une politique sociale globale, cohérente et adaptée aux besoins des Charentonnais. Elle témoigne de la volonté de la ville de poursuivre un accompagnement de proximité fort et solidaire auprès des personnes les plus fragilisées et dans toute leur diversité. Il vous est donc demandé, chers collègues, de voter l'attribution de cette subvention d'1 240 000 euros au Centre communal d'action sociale au titre de l'exercice 2026. Le budget du CCAS est consultable sur le site de la ville. Je vous remercie.
Y a-t-il des observations ? Oui, monsieur Essen.
Monsieur le maire, mes chers collègues, cette délibération propose d'attribuer une subvention d'1 240 000 euros au Centre d'action sociale pour l'année 2026. Cette somme était déjà inscrite au budget définitif et il nous est aujourd'hui demandé d'approuver le versement. Nous voterons bien entendu favorablement cette délibération, car le CCAS joue un rôle essentiel, comme vous l'avez bien décrit, un rôle essentiel dans notre commune. Il accompagne les personnes âgées, les familles, les personnes isolées, les habitants en difficulté et plus largement toutes celles et ceux qui peuvent traverser une période de fragilité. Mais ce vote favorable ne doit pas nous empêcher de dire que face à l'évolution des besoins sociaux, des précarités et du coût de la vie, cette enveloppe pourrait être renforcée. Aujourd'hui, avec une subvention d'1 240 000 euros, l'effort communal en faveur du CCAS représente à peu près 1,9% des dépenses réelles de fonctionnement de la ville. Si on se base sur les dépenses de fonctionnement qu'on a vues au CFU 2025. Nous pensons qu'une commune comme Charenton, qui dispose, comme je l'ai dit, d'une situation financière très confortable et d'excédent important, pourrait se fixer un objectif plus ambitieux. Par exemple, porter progressivement la contribution du CCAS à 2,5 ou 3% des dépenses réelles de fonctionnement, ce qui n'est pas une explosion des dépenses, et qui permettrait de renforcer concrètement les politiques de solidarité. À titre indicatif, un objectif de 2,5% représenterait à peu près 1,6 million d'euros, et un objectif de 3% environ 1,9 million d'euros. Cela donnerait au CCAS des moyens supplémentaires pour agir sur des sujets très concrets, les sujets actuels, l'isolement des personnes âgées, l'accès aux droits, les aides d'urgence, la précarité énergétique, l'accompagnement des familles, des jeunes et des personnes en difficulté. Comme nous l'avons dit, la ville dispose de marges financières importantes. Je vous ai écouté, l'idée c'est... C'est pas de dépenser, mais c'est le CCAS joue un rôle important. Donc notre demande est très simple, que la subvention du CCAS ne soit pas uniquement reconduite d'année en année, mais qu'elle fasse l'objet d'une vraie réflexion dans une trajectoire de renforcement de ses moyens. Nous voterons donc pour cette délibération, mais nous souhaitons que le renforcement des moyens du CCAS. Merci.
Merci. Muriel Ménard va répondre.
Alors, on peut toujours souhaiter aller plus loin et donner davantage. Je l'entends. Il s'agit ici d'une subvention qui reste constante, comme vous venez de le préciser. Mais dans un contexte budgétaire contraint que nous connaissons aujourd'hui, et le maintien de cette enveloppe dédiée au secteur social constitue un choix fort et pleinement assumé. De plus, il faut savoir que le budget prévisionnel du CCAS, lui, est en augmentation permanente. Il était de 1 658 000 en 2024, il est aujourd'hui d'1 973 000. Avec un très fort investissement de nos services qui font un travail remarquable dans la recherche des financements extérieurs, venant en complément de la subvention. Ils sont en forte augmentation, passant de 45 212 euros en 2021 à 225 108 euros en 2025. Alors oui, cette subvention, comme le budget du CCAS, traduisent parfaitement notre engagement auprès des Charentonnais les plus fragilisés et dans toute leur diversité, ne laissant personne au bord du chemin.
La parole à Chantal Leloup, si vous pouvez aussi commenter.
Alors, il faut savoir aussi que l'action sociale, elle ne s'arrête pas qu'au CCAS. Vous savez par exemple que la gestion de la résidence, elle est portée par la ville et non par le CCAS. Donc, c'est aussi cela l'action sociale, hein, pour ne pas l'oublier.
Oui, les exemples sont nombreux, de la même manière que nous pourrions aussi rattacher une partie des actions qui sont portées dans le domaine de la petite enfance au titre des actions de solidarité. Je pense au relais à la passerelle qui a été créé il y a maintenant 2 ans environ, ainsi que le dispositif du réseau petite enfance qui se tourne plus volontiers vers des familles parfois en difficulté. Donc si nous devions effectivement agréger davantage, on s'apercevrait que le seul budget du CCAS est effectivement plus étoffé qu'il ne l'est au sens strict du budget du Centre communal d'action sociale, et considérant par ailleurs que les dépenses de personnel n'y sont pas rattachées. Hein, et que là aussi, les effectifs qui sont liés de politique de solidarité sont contenues dans le chapitre 012 du budget général de la ville. Voilà, donc je propose de mettre aux voix qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Le point suivant sera présenté par Fabien Belon. Oui, pardon,
désolée d'interrompre la séance, mais ayant un intérêt dans l'une des associations concernées, je souhaite me retirer le temps de l'échange et de la délibération. Je ne prendrai donc pas part au vote.
D'accord. C'est noté, merci de votre démarche. Je pense que vous pouvez tout à fait rester en séance sans. Vous préférez vous mettre en retrait. Comme je l'ai fait pour le CFU. Alors ça va durer plus longtemps pour vous, malheureusement. Voilà. Monsieur Fabien Benoît va nous présenter cette délibération.
Merci, monsieur le maire. Chers collègues, lors de l'approbation du budget primitif 2026,
le conseil municipal a validé l'enveloppe dédiée aux subventions associatives. Chacun des 78 dossiers reçus a fait l'objet d'une analyse individuelle prenant en compte des critères précis. Le nombre d'adhérents avec la part de Charentonnais, la santé financière de l'association, sa vie démocratique et son organisation interne, la qualité de ses projets, son rayonnement et sa notoriété, enfin son utilité publique et sa contribution à l'animation locale, comme typiquement le forum des associations. Je tiens à saluer le travail remarquable des services municipaux, et plus particulièrement celui d'Isabelle van der Berg, Thomas Billy, qui nous a rejoint récemment, Valérie Drénaud et tous les directeurs de pôle, et les autres élus de secteur pour l'étude et l'analyse de ces demandes. Il y a beaucoup de documents, beaucoup d'éléments à absorber. Ce soir, nous statuons sur la répartition des subventions entre les 9 secteurs associatifs charentonnais. Je souligne que ces aides financières ne représentent qu'une partie du soutien municipal. La ville met également à disposition des équipements, une logistique adaptée et participe depuis 2006 au financement des chèques vacances, 51 527 euros en 2026, que nous avons voté en avril. En règle générale, les subventions 2025 sont reconduites. Pour le secteur de la vie associative, cela concerne 6 associations et le budget de fonctionnement est de 51 900 euros. Pour le secteur des jumelages, la subvention de fonctionnement est de 19 300 euros, plus 1 800 euros de subvention périscolaire et 7 200 euros d'actions spécifiques pour un montant total de 28 300 euros. Les associations du développement durable sont au nombre de 6. Les subventions de fonctionnement s'élèvent à 6 200 euros. Les associations patriotiques sont également au nombre de 6 pour un montant de subvention de fonctionnement de 2 200 euros. Pour l'éducation, il y a 6 associations et des subventions de fonctionnement pour 6 000 euros. Pour la vie des seniors, 3 associations sont concernées et leurs subventions de fonctionnement s'élèvent à 20 300 euros. Pour le secteur social, il y a 15 associations avec 38 750 euros de subventions de fonctionnement, 2 500 euros d'actions spécifiques et un total de 41 250 euros. Pour les sports, il y a 27 associations concernées pour un total de 425 300 euros, 2 610 euros pour le projet Bouge ta classe, 16 150 euros de subventions scolaires, 33 780 euros pour les subventions périscolaires et 22 900 euros d'actions spécifiques. Ce qui fait un total pour les associations sportives de 540 euros. Pour la culture, les associations concernées ont une subvention de fonctionnement d'un montant de 20 800 euros, avec des subventions périscolaires de 5 400 euros, pour un total de 26 200 euros. Au global, l'imputation budgétaire est donc de 734 617 euros, dont 642 277 euros de subvention de fonctionnement, 2 610 euros pour Bouge ta classe, 16 150 euros de subvention scolaire, 40 980 euros de subvention périscolaire et 32 600 euros de subvention spécifique. Enfin, je termine sur un dernier chiffre à retenir. Au-delà de ces subventions, et comme je l'ai dit en préambule, la ville offre un soutien en nature évalué à près de 2 843 000 euros. Salles, équipements, largement sportif, du reste, transport. C'est une aide concrète et majeure pour le dynamisme de notre tissu associatif. Je pense qu'il faut qu'on s'en rappelle tous. Voilà. Je vous remercie.
Merci pour cette présentation. Y a-t-il des remarques ? Oui, Madame Leclerc.
Monsieur le maire, chers collègues, nous nous abstiendrons sur cette décision. Cependant, il nous semble qu'il y a une disproportion entre les subventions allouées à la culture ou à la transition écologique, au maximum 5 000 euros pour certaines associations, et celles allouées au sport, des subventions de plus de 100 000 euros pour certaines. Et, bien sûr, nous savons que les subventions sont octroyées au mieux à hauteur de celles demandées par les associations. Ça, on est au courant. Au moment où la municipalité trouve dommage que les Charentonnais n'aillent pas plus au théâtre municipal, il serait peut-être temps de subventionner le monde de la culture, à commencer par les associations. Je vous remercie.
Merci.
Écoutez, les associations culturelles sont très suivies et soutenues. Donc, on leur donne ce qu'elles demandent et on est là s'il y a un problème. Donc, on les accompagne sans arrêt et sans faute.
Bien, écoutez, je vais proposer, au-delà de ce commentaire, mettre aux voix. Qui vote contre, qui s'abstient, abstention. J'ai encore le droit de réfléchir. Ok, donc 3, très bien, merci. Ok. Je propose, merci, donc, et je salue Isabelle Vandenberg et Thomas Villiers pour la conduite de ce dossier sous la houlette de Luc. Merci. On va rappeler notre collègue. Merci. Donc le point suivant sera présenté par Patrick Segala.
Merci Monsieur le Maire. Ce dossier intéresse le comité social territorial, une instance paritaire qui réunit les représentants du personnel élu et les représentants de la collectivité, et qui a été institué par la loi de transformation de la fonction publique en 2019. C'est donc un rouage essentiel du droit à la participation des fonctionnaires à la détermination de leurs conditions de travail, ainsi renforcé au sein des instances de dialogue social. Il est issu de la fusion du comité technique et du comité d'hygiène, sécurité et des conditions de travail, sous l'acronyme CHSCT, que nous connaissions, historique, et on a vu le jour lors du dernier renouvellement. Je veux parler donc désormais du CST, du renouvellement général des instances de la fonction publique, en décembre 2022. Et ce qui nous intéresse ce soir, ce sont les prochaines élections professionnelles du 10 décembre 2026, et il appartient ce soir au Conseil municipal de fixer pour cette instance le nombre de représentants du personnel, mais aussi de se prononcer sur le maintien du paritarisme, ainsi que sur le recueil de l'avis du collège des représentants de la collectivité, après avoir concerté les organisations syndicales locales au cours d'une réunion dédiée le 7 mai dernier à la préparation de ces mêmes élections professionnelles. Donc trois items nous intéressent dans cette délibération. Tout d'abord, le nombre de représentants du personnel au CST. En effet, lorsque l'effectif est compris dans une fourchette de 200 à 999 agents, le nombre de représentants peut être fixé entre 4 et 6. Il est donc proposé de maintenir le fonctionnement existant, à savoir 6 représentants titulaires et autant de suppléants, notre effectif étant figé au 31 décembre à 620 agents potentiellement votants. Deuxième item, le nombre de représentants du personnel de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité, conditions de travail. Pour votre information, les collectivités employant au moins 200 agents doivent instituer cette formation spécialisée, ex-CHSCT. C'est donc une émanation de l'instance principale, dont le nombre de représentants du personnel titulaire de cette formation est proposé à l'identique, pour être cohérent, à celui des représentants du personnel titulaire de CHSCT. Le troisième item, c'est le paritarisme et l'avis des représentants de la collectivité. Ce dernier volet porte sur le maintien du paritarisme numérique entre les deux collèges, donc entre les représentants des élus du personnel et les représentants de la collectivité, pour qu'il y ait exactement le même nom, et le maintien du vote du collège employeur. Ça paraît un petit peu surprenant, mais il faut délibérer pour que le collège côté employeur puisse être pris en compte. Enfin, pour conclure, lors de cette consultation avec les organisations syndicales qui étaient présentes le 7 mai dernier, ces dernières se sont prononcées favorablement à l'unanimité au maintien du nombre maximal des 6 représentants titulaires, comme dans sa formation spécialisée, ainsi qu'à la parité numérique et le recueil de l'avis des représentants de la collectivité. Merci, Monsieur le Maire.
Merci. Est-ce que ces délibérations appellent des commentaires? Non. Mais donc on voit qui vote contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Dossier suivant présenté par Pascal Turlot.
Merci, Monsieur le Maire. Il s'agit de la mise en place du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et de radicalisation. Enfin, même plutôt que sa mise en place, c'est une reconduction, c'est un renouvellement de l'instance. Donc, ce Conseil local constitue l'instance de concertation et de coordination des actions menées à l'échelle communale en matière de sécurité, de prévention de la délinquance et de prévention de la radicalisation. Depuis 2016, la commune de Charenton-le-Pont assure directement la mise en œuvre de ce Conseil local de sécurité. À la suite du renouvellement du conseil municipal intervenu en mars 2026, il convient donc de procéder à la mise en place de cette instance pour la nouvelle mandature. Le CLSPDR est présidé par le maire et réunit notamment les représentants de l'État, les acteurs institutionnels concernés, autorités judiciaires, forces de sécurité, services sociaux et éducatifs, ainsi que les partenaires locaux impliqués dans les actions de prévention. Il constitue un lieu d'échange, d'analyse et de coordination des politiques publiques en matière de sécurité. À ce titre, ce Conseil de sécurité a notamment pour mission d'établir un diagnostic local de sécurité, de définir et suivre les orientations en matière de prévention de la délinquance et de prévention de la radicalisation, de coordonner l'action des différents partenaires et d'évaluer les dispositifs mis en œuvre. La composition détaillée de ce Conseil de sécurité sera fixée par arrêté du maire, conformément aux dispositions en vigueur, et il est donc proposé au nom du Conseil municipal de décider de la mise en place du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation de la commune de Charenton-le-Pont. Merci.
On n'est pas encore dans le curatif. Hein. Merci. Y a-t-il des observations? Oui, monsieur Lesséni.
Monsieur le maire, chers collègues, nous voterons favorablement cette délibération concernant la mise en place du Conseil local de sécurité, de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Cette instance est utile car elle doit permettre de coordonner les acteurs locaux, les services de l'État, les forces de sécurité, les services sociaux, éducatifs et les partenaires de terrain autour d'un diagnostic partagé et d'actions de prévention. Nous souhaitons cependant insister sur un point. La sécurité ne doit pas être abordée uniquement sous l'angle répressif ou de surveillance. Elle doit aussi et surtout passer par la prévention, l'accompagnement social, l'éducation, la médiation, le soutien en famille et le travail de terrain avec les jeunes. Nous serons donc attentifs à la place donnée aux acteurs de prévention, aux associations et aux professionnels de terrain. Pour nous, ce Conseil local de sécurité est un véritable outil de dialogue, d'analyse et de prévention, et pas seulement une instance formelle. Nous voterons donc pour cette délibération. Merci.
Merci.
Alors, je vous remercie de confirmer exactement ce qui a été présenté et avec l'objectif à atteindre. Merci.
Alors, monsieur Lesséni va redemander la parole, pardon. Oui, allez-y, je vous en prie, je vous donne la parole.
Juste que, rappelez que nous serons attentifs à la place donnée aux acteurs de la prévention.
Très bien, je crois que c'est gentil. Bien, donc je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, je vous en remercie. Le point suivant, j'aurai donc plaisir de vous le présenter. Il s'agit de la modification de la composition de la commission consultative des services publics locaux. En l'occurrence, il y a deux changements qui vous sont proposés. Nous avions initialement délibéré pour y intégrer Pascal Turano au sein de l'instance. Or, je souhaite qu'il la préside. Pour qu'il la préside, il ne peut y siéger. Donc, par conséquent, je le retire de la liste initiale et j'y intègre donc en remplacement Christophe Galotte, voilà, qui siégera, comme il siège d'ailleurs à la commission d'appel d'offres, au sein de la commission consultative des services publics locaux, et ainsi je pourrai par arrêté installer Pascal Turano comme président de cette même instance. Et par ailleurs, la personne qui était représentante d'associations locales au titre du club Gravel Entreprendre
s'est aussi désisté. Donc en remplacement de Laurent Martinez qui s'est désisté, il est proposé une autre représentante du club, en l'occurrence Valérie Pasquier. Voici donc les modifications liées à la commission des services publics locaux. Est-ce que ça appelle des remarques, des observations ? Non ? Donc je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient, unanimité. Le point suivant, je crois, me revient aussi. Alors c'est une novation qui vous est proposée ce soir, en l'occurrence l'instauration d'une distinction de citoyen d'honneur de la ville de Charenton, qui pourrait effectivement honorer tel ou tel citoyen de cette ville, ou telle personnalité, pourquoi pas extérieure, qui aurait contribué de près à son engagement, son parcours ou son attachement à la commune, son rayonnement aussi, ou tout simplement à la vie locale. Alors il ne s'agit pas pour nous ici d'inscrire à tous les ordres du jour des conseils municipaux des 6 ou 7 prochaines années un citoyen d'honneur, mais bien, bel et bien de distinguer parmi les citoyens d'honneur ceux qui répondront à quelques-uns des critères qui sont proposés ici. En tout cas, le principe est présenté ce soir sur cette distinction que je souhaite instaurer, et j'aurai effectivement l'occasion prochainement de pouvoir distinguer l'un de nos concitoyens, malheureusement décédé depuis, qui s'est particulièrement illustré vis-à-vis de la ville, et j'aurai l'occasion de vous présenter ce contexte. Voici, ce n'est évidemment pas une distinction que je pourrais qualifier d'officielle et reconnue comme telle, mais néanmoins une faculté que certaines collectivités utilisent. Est-ce que ça appelle des commentaires ? Oui, monsieur Renaud.
Merci, monsieur le maire, chers collègues. Nous voterons en faveur de cette délibération et de la création de cette distinction qui tient du symbolique, comme sa présentation l'indique. Nous souhaiterions toutefois apporter des propositions complémentaires, certains points n'étant pas abordés. Nous saluons la volonté de mettre en valeur des citoyennes et des citoyens qui, par leur engagement, leur parcours ou leur attachement à Charenton, ont contribué positivement à notre ville, à son rayonnement. Toutefois, il y a une grande inconnue. Qui peut proposer des noms au conseil municipal ? Uniquement monsieur le maire, uniquement la majorité, nous, membres de l'opposition, les associations peuvent-elles proposer des noms ? Des simples citoyennes, citoyens peuvent-ils nous proposer d'honorer telle ou telle personne ? Est-ce qu'il y aura un tri qui sera effectué par une des commissions municipales ? Quelle commission municipale ? La commission des finances, comme cette délibération a été précédemment étudiée. La commission de famille et solidarité, si une personne du secteur des seniors est honorée. Donc, est-ce que des dossiers doivent être déposés ? Qu'est-ce qui sera contenu dans les dossiers ? Par ailleurs, nous sommes d'accord avec vous, cette reconnaissance honorifique se doit d'être rare pour qu'elle ne soit pas dévoyée. Donc nous voterons bien évidemment pour. Je vous remercie.
Bien. Je partage tout à fait votre conclusion. Elle sera rare et donc ne sera pas dévoyée. Par conséquent, je n'irai pas distribuer des dossiers de type Légion d'honneur ou mérite, de l'Ordre national du mérite, une promotion là qui vient de tomber. Il ne s'agit pas de cela. En revanche, si effectivement vous aviez une proposition à formuler vis-à-vis d'un citoyen qui aurait répondu aux critères que je viens de rappeler ici, je vous laisse effectivement toute possibilité de me saisir. Mais il me reviendra effectivement d'arbitrer sur la légitimité de telle ou telle proposition, mais encore une fois, ce sera une démarche tout à fait réduite, en tout cas rare, dans l'exercice de ce mandat. Donc, pas de dossier proposé par l'administration ou la municipalité à cet égard qui se passerait sous le manteau dans cette ville pour ensuite atterrir sur le bureau du maire qui aurait ça de plus à traiter. Non, c'est pas ça dans cette ville. sans quoi je ne présenterai pas cette délibération ce soir. En plus du reste, c'est... Voilà, donc je mets aux voix qui vote contre, abstention, j'ai compris que c'était l'unanimité, je vous en remercie. Et je propose à Sylvain Dourier de présenter le point suivant.
Oui, merci Monsieur le Maire. Depuis plusieurs années, notre ville soutient activement la démarche, l'action Lire et faire lire en partenariat avec l'UDAP et la Ligue de l'enseignement. Le principe est extrêmement simple, mais je crois d'une très grande richesse humaine, puisque pour faire simple, ce sont des bénévoles de 50 ans et plus qui se rendent de manière hebdomadaire dans nos crèches, dans nos écoles maternelles, dans nos écoles élémentaires, dans nos centres de loisirs, pour lire des histoires aux enfants, tout simplement. C'est un moment privilégié pour pouvoir y avoir assisté et qui stimule notamment le goût de la lecture, le goût du livre et développe l'imaginaire de nos enfants et renforce le lien social entre les générations. Sur l'année 2025-2026, ce sont 17 bénévoles charentonnais qui ont été mobilisés sur cette opération. Ce dynamisme a d'ailleurs valu à notre commune, je vous le rappelle, de recevoir un diplôme d'honneur de la part de l'Association des maires de France lors de la précédente session. Aujourd'hui, donc, je vous propose d'aller un peu plus loin et de solliciter officiellement le label national Ma commune aime lire et faire lire. En postulant à ce label, nous nous obligeons officiellement à poursuivre le travail et à aller encore plus loin dans cette formidable illustration de la solidarité intergénérationnelle à Charenton-le-Pont. Il vous est donc demandé d'approuver cette démarche et d'autoriser M. le maire à déposer notre candidature officielle.
Merci. Y a-t-il des observations ? Donc, je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Unanimité. Dossier suivant sera présenté par Chantal Lehoux, Postmontier.
Monsieur le maire, chers collègues, cette délibération concerne l'approbation d'une convention d'objectifs entre la commune et l'association de l'amicale du troisième âge, dite A3A. Conformément à la réglementation applicable aux subventions supérieures à 23 000 euros, il est nécessaire de formaliser les engagements qui sont réciproques entre la ville et l'association par une convention. L'association des 3A joue un rôle important dans l'animation de la vie sociale de nos seniors. Elle propose tout au long de l'année des activités culturelles, des loisirs, des temps de convivialité, ainsi que des actions ponctuelles comme des repas et la distribution des cadeaux de Noël. La convention proposée, elle est conclue pour une durée de 2 ans à compter de 2026. Elle précise les modalités du partenariat entre la commune et l'association en cohérence avec notre politique municipale en faveur des aînés. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver cette convention et d'autoriser M. le maire à la signer. Merci beaucoup.
Merci. Est-ce que cette délibération appelle des commentaires ? Non. Je mets donc aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Unanimité. Dossier suivant sera présenté par Élise Longueuil. Dossier 12.
Merci, Monsieur le Maire. Nous constatons une évolution des usages de l'espace public, la persistance de situations de tension et parfois malheureusement la survenue d'incivilités dans les comportements. Nous en sommes d'une part nous-mêmes témoins et il nous semble que c'est l'un des premiers sujets de préoccupation des Charentonnais. Dans ce contexte, la ville a fait le choix de renforcer, depuis plusieurs années, son action en matière de prévention et de tranquillité publique, en développant un dispositif de médiation sociale de proximité. Ce dispositif complémentaire des interventions des services municipaux, tels que l'espace jeunesse, et des partenaires institutionnels, comme la police municipale, vise à apporter des réponses adaptées aux situations du quotidien, à favoriser le dialogue et à prévenir les conflits, en particulier auprès des jeunes publics. Il participe pleinement à la politique municipale de sécurité et de cohésion sociale. Pour illustrer l'action de notre médiation de rue en 2025, nous avons pu bénéficier de l'intervention de la mobilisation de médiateurs, entre 1 et 3 médiateurs selon les besoins, 5 jours par semaine, avec une présence renforcée les mercredis et les samedis sur 7 secteurs prioritaires et les abords des établissements scolaires. Ils ont pu mener et organiser certains événements fédérateurs, comme par exemple une rencontre de foot en lien avec le CAP Foot de Charenton, c'était en juin dernier. Ils ont aussi permis de désamorcer de nombreuses situations de tension, de repérer des jeunes en situation de vulnérabilité pour pouvoir engager des premières orientations. Ils ont pu améliorer le climat relationnel dans les espaces publics qu'ils ont investis. Dans ce cadre, la commune s'inscrit dans un partenariat avec l'établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois qui reconnaît l'intérêt de ces actions à l'échelle du territoire et apporte son soutien financier à leur mise en œuvre. Pour l'année 2026, ce partenariat se traduit par la conclusion d'une convention d'objectifs et de moyens prévoyant l'attribution d'une subvention de 50 000 euros au bénéfice de la commune afin de soutenir et de poursuivre les actions de médiation et de prévention conduites localement. Cette convention encadre les engagements respectifs des parties, ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation des actions mises en œuvre. Points réguliers, échanges, suivi précis sur l'évolution des situations auxquelles la médiation sociale est confrontée. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver les termes de la convention à conduire avec l'EPT Paris-Est-Marne-et-Bois et d'autoriser Monsieur le maire à la signer ainsi que tout document afférent. Merci Monsieur le maire.
Merci. Est-ce que cette délibération appelle des commentaires? Non. Je mets donc aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous en remercie. Le dossier suivant sera présenté par Delphine Herbert.
Oui, merci, Monsieur le maire. Il s'agit donc d'autoriser Monsieur le maire à signer 2 conventions de partenariat culturel portées par la médiathèque des quais autour d'un projet oralité et déambulation. Ce projet s'articule autour de la transmission, de la création artistique et de l'ouverture pluridisciplinaire. Donc la première convention sera contractée avec le Conservatoire de musique, danse et art dramatique de Drancy qui proposera une lecture publique de la comédie sociale Croum, l'ectoplasme de Hanoch-Lévin, par 7 élèves du cycle 2, le 19 juin prochain à 20h auprès des médiathèques de la médiathèque. Et la deuxième convention sera contractée avec l'association L'Improvisoire, c'est la compagnie du professeur d'art dramatique du Conservatoire de Drancy, Emmanuel Ouzé, qui se produira avec 6 comédiens de la médiathèque, à la médiathèque au printemps 2027, en lien avec les élèves de l'école d'art Pierre Soulages, qui fabriqueront les décors. Voilà, Monsieur le maire.
Merci. Est-ce que cette délibération appelle des commentaires? Non. Je mets aux voix. Qui vote contre? S'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Le dossier suivant sera également présenté par Delphine Herbert.
Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit là d'autoriser Monsieur le maire à signer les contrats de spectacle relatifs à la saison 2026-2027 au T2R. Au cours de la saison 25-26, quasiment écoulée, nous constatons certains points, notamment une baisse de la fréquentation du T2R qui s'inscrit dans une tendance générale au plan régional mais aussi national des lieux de diffusion de spectacles vivants. Les comportements des publics ont changé depuis la crise sanitaire. Les publics n'ont pas encore renoué avec leurs habitudes de sortie au théâtre et arbitrent davantage leurs sorties avec une concurrence forte entre les lieux culturels dans un contexte d'inflation. On a constaté aussi une densité forte au cours de cette saison, même si les spectacles étaient de qualité avec une offre ambitieuse et diversifiée. Donc cette densité a dû certainement nuire à la capacité de communication de l'équipe. Face à ce diagnostic, la saison 26-27 opère un ajustement stratégique délibéré avec moins de spectacles, mais mieux ciblés, avec une logique d'attractivité, avec la programmation de plusieurs spectacles tête d'affiche, comme l'expérience théâtrale, le fantôme de l'opéra, le malade imaginaire, Mélissa Lavo, Bac au cinéma avec l'Orchestre national d'Île-de-France. Ces spectacles sont destinés à jouer un rôle d'appel et dynamiser la fréquentation globale. La programmation reste néanmoins résolument ouverte à la découverte et à la diversité des écritures artistiques. Le lien avec les publics scolaires est maintenu, avec une programmation spécifique sur le temps scolaire pour accueillir les écoles de la ville. Le lien aussi avec les résidences d'artistes est maintenu et renforcé, avec des artistes associés à la saison. Ce lien est très important pour fidéliser à long terme et pour ancrer au niveau du territoire, car la programmation ne se suffit pas à elle-même. Vous retrouverez donc le tableau avec le détail des contrats à signer pour la saison 26-27 dans la note qui est jointe. Voilà, monsieur le maire.
Merci. Est-ce que cette délibération appelle des commentaires? Non. Je mets donc aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Unanimité. Le dossier suivant sera également donc présenté par Delphine Herbert sur les tarifs.
Oui. Donc on enchaîne sur les tarifs du T2R. Donc le pass adulte à 15€ et le pass réduit sont maintenus, mais ils sont désormais conditionnés à l'achat d'au moins 2 spectacles pour encourager et fidéliser le public à venir au moins 2 fois au théâtre. On propose aussi une nouvelle offre de fidélisation pour à partir du 3e spectacle acheté. Le 4e est proposé à 1€ dans les catégories C. On crée un nouveau tarif pour les 18-26 ans pour motiver et dynamiser les jeunes, pour les associations et les groupes d'étudiants de 10 personnes minimum. Et enfin, on augmente la grille tarifaire des catégories A+ jusqu'à B de 48€ à 22€ pour le plein tarif et de 32 à 27€ pour les tarifs réduits. Ça, il faut bien entendre que ces tarifs sont sans les passes. Voilà, monsieur le maire.
Merci. Est-ce que c'est délibération appelle des commentaires? Oui, madame Le Fleur.
Alors, excusez-moi. Là, je vais parler pour les délibérations 15 à 18, qui sont sur pour l'ensemble de ces délibérations sur les tarifs. Donc, nous allons voter pour ces délibérations. Cependant, bien que nous sachions qu'il existe des tarifs spéciaux pour certaines personnes qui ne peuvent pas payer le tarif plein, il serait intéressant d'élargir ces tarifs à d'autres, comme des bas salaires. Et pourquoi pas, pour les plus précaires, ne pas aller jusqu'à une gratuité. Voilà. Merci beaucoup.
Donc là, c'est difficile en fait, de répondre de façon globale, parce que chaque équipement a sa grille tarifaire. Donc, il existe des gratuités justement au niveau des médiathèques pour les Charentonnais et ceux qui travaillent à Charenton. Voilà, on peut pas mettre tout gratuit après.
Bon, je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. J'ai compris qu'il y avait un vote favorable. Très bien. Le dossier suivant est relatif aux tarifs pour les médiathèques.
Voilà, donc justement, on parlait des médiathèques. En effet, donc je vous rappelle que la gratuité pour les Charentonnais, pour les demandeurs d'emploi, RSA, personnes en situation de handicap, jeunes scolarisés à Charenton, extérieurs mais travaillant à Charenton, voilà, ils ont accès gratuitement à la médiathèque. Donc on décide d'augmenter un petit peu les tarifs dans la logique de la politique de la ville de 0,8%, uniquement les tarifs extérieurs. Donc ça amène ce tarif à 15,40€ pour les 0-25 ans et 30,70€ pour les plus de 26 ans. Et on augmente un petit peu les tarifs aussi pour en cas de perte des documents. Voilà, donc vous avez la grille dans la note. Voilà, monsieur le maire. Pour les médiathèques.
Merci. Y a-t-il des commentaires éventuels? Non, je vais vous voir. Unanimité, si j'ai bien compris, sur ces dossiers. Le point suivant, toujours s'agissant des tarifs, c'est pour les autres équipements culturels. Et c'est Sylvain Drouillet, en l'occurrence.
Merci, monsieur le maire. Mais je présenterai cette délibération sous le contrôle attentif de ma voisine de droite, puisque. Effectivement, ça concerne notamment des équipements culturels. Je souhaite néanmoins vous rassurer, enfin je ne sais pas si je vous rassure, on ne prévoit pas la gratuité, mais à minima pour la rentrée prochaine, la municipalité a fait le choix de la stabilité sur ses tarifs pour l'essentiel, puisqu'il s'agit de la restauration scolaire, des accueils du matin et du soir, du conservatoire aux ateliers artistiques, les grilles tarifaires de base restent globalement inchangées par rapport à l'exercice précédent. Je signale aussi, et ça a son importance, que nous maintenons bien sûr l'application rigoureuse du quotient familial, du TSI, pour maintenir l'équité qui, comme vous savez, est pour nous une valeur et un principe qui nous est cher. De la même manière, on maintient bien sûr l'abattement spécifique pour les enfants bénéficiant des protocoles PAI, et qui bien sûr reconduit donc à l'identique. La principale nouveauté dans cette délibération concerne l'évolution pédagogique de l'établissement de l'école d'art Pierre Soulages, et donc, par définition, ses conséquences tarifaires. L'objectif est d'harmoniser nos intitulés, nos pratiques tarifaires et nos tarifs entre les disciplines enseignées au sein de cet très bel établissement. Voilà, je vous en remercie.
Pas de commentaires, je mets donc aux voix, pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Le point suivant sera présenté par Fabien Benoît.
Merci, monsieur le maire. La présente délibération consiste à proposer une revalorisation des tarifs et droits d'entrée de la piscine municipale à hauteur de 0,8% au regard de la réactualisation des tarifs des services usagers. Comme cela a été indiqué dans la note, ce pourcentage correspond à l'indice des prix à la consommation harmonisé et appliqué à la révision des tarifs de location des équipements municipaux lors de la séance du conseil municipal du 17 décembre dernier. Il est par ailleurs proposé d'arrondir à la dizaine la plus proche ces nouvelles tarifications de façon à faciliter le rendu de la monnaie à la caisse lorsque les usagers payent en espèces. Dans ce contexte, il est proposé aux membres du conseil municipal d'adopter ces nouveaux tarifs.
Merci. Pas d'autres commentaires, donc unanimité sur ce dossier. Le point suivant sera présenté par Isabelle Porte.
Merci, monsieur le maire. La présente délibération concerne l'approbation des conventions actualisées des mises à disposition des installations sportives à titre gracieux et à titre payant. Donc, notre ville, propriétaire d'équipements sportifs, que l'on connaît tous, gymnase, piscine, stade, met ces installations à disposition d'organismes sportifs et des organismes publics, privés, pour l'exercice de leur activité sportive et dans des conditions qui sont définies. Ces organismes participent au développement des pratiques physiques, sportives, également à l'animation de la commune. Pour rappel, demain, il va y avoir, c'est la journée de l'athlétisme, c'est ça, c'est le meeting athlétique demain, toute la journée, enfin du moins toute l'après-midi. Donc ces mises à disposition peuvent être accordées à titre gratuit, donner lieu à une facturation dont les tarifs sont fixés par délibération du conseil municipal. Afin de préciser le cadre d'utilisation de ces installations, une convention de mise à disposition est établie. Elle définit les modalités d'utilisation des équipements sportifs et les matériels associés. Les modèles de convention, qu'elles soient conclues à titre gratuit ou payant, ont été actualisés lors d'une séance du conseil municipal en 2022, 25 mai 2022, et une nouvelle mise à jour apparaît nécessaire sur le point suivant. Création d'un article, article 3, relatif à l'organisation d'événements auprès de matériel, la précision de la durée de la convention, article 4, désormais fixée de date à date en remplacement de la notion de saison sportive. L'ajout dans les conditions d'utilisation, l'article 7, d'une disposition prévoyant que toute dégradation entraînera le remplacement du matériel et des équipements aux frais de l'utilisateur concerné. Le rappel pour la mise à disposition à titre gratuit dans les dispositions financières, article 9, que la mise à disposition gratuite d'infrastructures constitue une subvention au même titre qu'une aide financière directe. Le rappel pour la mise à disposition à titre payant dans les dispositions financières, article 9, toujours, que la facturation est établie sur la base des créneaux effectivement attribués, tels que définis dans le planning ou état récapitulatif conjointement validé. Les modifications apportées sont surlignées en jaune dans chacun des modèles de convention jointe. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver ces actualisations afin d'autoriser monsieur le maire à signer ces deux conventions, ces deux modèles de convention relatifs à la fois à la disposition à titre gratuit et à la mise à disposition à titre onéreux.
Merci. Merci. Y a-t-il des remarques? Oui, Mme Marceau.
Oui, merci, monsieur le maire, chers collègues. Nous voterons en faveur de cette délibération. Nous souhaitons en complément proposer de réfléchir à une innovation que d'autres communes ont mis en place. C'est la mise à disposition d'installations sportives charentonnaises sur créneaux réservés et potentiellement hors créneaux réservés aux associations, hors secteur associatif. Ils pourraient ainsi, les Charentonaises, Charentonais, notamment les jeunes, pourraient ainsi pratiquer une activité physique ou sportive sans avoir besoin de s'inscrire ou de s'y inscrire en complément d'une pratique associative. Cela pourrait se faire par exemple sur le modèle de la piscine, sans nécessité de réserver, ou alors ce que d'autres communes ont mis en place, avec l'obligation de réserver un créneau à l'avance, qui peut se faire via une plateforme en ligne, numérique. C'est en tout cas une piste de réflexion que nous suggérons d'expertiser si vous retenez cette idée. Merci.
Oui, je propose que Fabien Benoît apporte une première réponse à votre proposition.
Merci, monsieur le maire. Je me rappelle que c'est un sujet dont on a un peu commencé à discuter. C'est vrai qu'on a un contexte où on a, comme vous savez, une forte dynamique de nos associations et donc des créneaux déjà très, très, très utilisés. Donc ça mérite réflexion et échange pour voir quelles pourraient être les modalités plus précises. En tous les cas, sachez qu'actuellement, nos jeunes ne manquent pas d'accès ces différents équipements, et c'est vrai qu'on parle des associations sportives, mais j'en ai parlé aussi lors des subventions des associations. On a différents canaux par le temps scolaire, hors temps scolaire, nos contrats bleus, ateliers du soir. Donc, on a de multiples moyens déjà de rendre accessible le sport au-delà de la licence. Mais bon, je suis disponible pour bien comprendre ce dont il s'agit de votre part. Collègue Sylvain me mentionne qu'on a aussi évidemment des équipements publics en large accès. On a installé depuis peu dans le parc de Conflans des appareils de musculation en plein air. On a aussi le long des voies ferrées ex-actif 6 BPCE des terrains de sport accessibles. Au parc de Conflans aussi un terrain de foot, un terrain de basket. Voilà, donc on a quand même des terrains sur des sports co, sur un certain nombre de pratiques qui sont accessibles aussi.
Dans ce cadre-là, précisément pour le parc de Conflans, j'ai demandé aux équipes de réfléchir à la reconfiguration, alors c'est peut-être pas le terme approprié, mais plutôt au réaménagement du terrain qui sert effectivement à. Qui est un peu un terrain polyvalent du parc de Conflans pour le plus grand, pour que la partie sol soit retraitée, parce qu'elle abîme, elle abîme les genoux de jeunes Charentonnais, parce que ce sol est maintenant quand même très esquinté. Et donc j'ai demandé à ce que la direction du patrimoine réfléchisse effectivement à un aménagement plus souple, et donc au passage, l'amélioration des conditions de sport au grand public sur ce site. La question des équipements sportifs, alors pour le coup, mise à disposition pour l'essentiel, soit des activités scolaires, hein, puisque ils en occupent une frange très significative, ou associative, la question fondamentale, c'est quel créneau reste-t-il pour s'interroger sur cette question qui est tout à fait pertinente. Mais comme l'a rappelé Fabien, l'amplitude horaire est réputée forte, grande, conséquente. Et sauf à imaginer des ouvertures nocturnes au-delà de 22 heures pour certains équipements, ce qui est quand même, de ce point de vue-là, problématique, hein, parce que ça signifierait des mises à disposition
de personnel et puis de frais de coûts engendrés par une ouverture d'un équipement de type gymnase. Bon, ça mérite réflexion. En tout cas, je crois que l'arbitre dans ce domaine-là, c'est tout simplement de se dire de quel créneau disposerions-nous encore pour nous autoriser ce genre de choses. Donc, en attendant, concentrons-nous sur les équipements qualifiés ouverts au grand public, comme cela a été rappelé, pour les améliorer lorsqu'il est besoin de le faire. Et ça, au cours des 3 ans à venir, il faut qu'on se fixe cet objectif-là, à la fois sur le terrain Necker qui est mis à disposition au profit de la ville, qui n'est pas un terrain ville, mais aussi le parc de confort, tout particulièrement après ce très bel aménagement qui a été porté dans le cadre justement de la démarche du budget participatif. Bien, donc je mets aux voix cette délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Donc, le point suivant, j'ai déjà indiqué qu'il avait été retiré. Le dernier revient à Mylène Giffard.
Monsieur le maire, chers collègues, la ville de Charenton-le-Pont dispose d'un marché alimentaire qui joue un rôle essentiel dans la vie commerciale et sociale locale. Depuis décembre 2023, sa gestion est confiée à la société Loiseau Marché dans le cadre d'un contrat de concession. Si cette gestion est externalisée, la ville demeure pleinement responsable du suivi de ce contrat. Il est donc nécessaire de mettre en place un cadre de contrôle et de concertation adapté. C'est pourquoi nous proposons de renouveler la commission du marché alimentaire. Cette instance réunira la ville, le concessionnaire et les représentants des commerçants afin d'assurer un suivi régulier du fonctionnement du marché. Elle aura notamment pour mission d'examiner l'activité du concessionnaire, de formuler des recommandations et de relayer les observations des usagers. Elle sera également l'occasion de discuter des nouveaux arrivants ainsi que des projets d'animation du marché. La délibération qui vous est présentée vise ainsi à préciser ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement. Je vous propose donc d'approuver la mise en place de cette commission. Je vous remercie.
Y a-t-il des remarques? Aucune. Donc je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Voilà, je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. On a perdu le conseil municipal des jeunes. Hein. Ils ont décroché sur CFP, je crois. Il reste 4.